après avoir été héroïquement transgressif, le grand art est désormais contaminé par la parodie. Transgression de la transgression. Et ce, dans la mesure où la transgression a fini par prendre conscience de son caractère artistiquement obligatoire.
À bout de souffle.
Rencontre avec Mehdi Belhaj-Kassem à propos de l'ouvrage Une esthétique et mimesis, sous-titre Badiou, la Koulabart et la question de l'art, publié aux nouvelles éditions Ligne.
Entretien à bout de souffle.
Alain Badiou, esthétique et politique. La Koulabart et la question de l'héroïsme. Une émission radiophonique.
À bout de souffle.
Une émission radiophonique.
En réalité, je souscris bien à la fidélité à l'être tel que le vide le nomme. Je souscris également à la nécessaire interruption du poème. Il y va, dans l'un et l'autre cas, de la possibilité de l'événement. Mais pourquoi, et c'est au fond ma seule question, devrait-ce être au profit du mathème? N'y a-t-il pas autre chose à inventer qui transit notre monde?
Hello? Is anybody home? Well, you don't know me, but I know you, and I got a message to give to you.
Je souscris bien à la fidélité à l'être tel que le vide le nomme.
Ready to go. You can come as you are.
Tel que le vide le nomme.
Pay as you go. Pay as you go.
Je souscris également à la nécessaire interruption du poème. Il y va, dans l'un et l'autre cas, de la possibilité de l'événement.
And I said, okay, who is this really? And the voice said, this is the hand.
Mais pourquoi devrait-ce être au profit du mathème? N'y a-t-il pas autre chose à inventer qui transit notre monde?
We'll be right back.
désertification des arts. Désigne, dans son acception première chez Adorno, la décomposition ou l'effondrement de l'art, sa dissolution dans ce que la Kunstkritik appelle l'industrie culturelle. Pour autant, mais c'est extrêmement fragile, que l'art puisse se saisir dans son concept comme une autonome, c'est-à-dire affranchie de la tutelle magique ou religieuse, ce qui ne veut pas dire métaphysique, ce qui advient héroïquement avec la modernité, la désertification, et le processus sous les conditions du capital et de la société administrée, l'hétéronomisation de l'art. Si l'on veut, d'un mot, son devenir marchandise, avec sa conséquence inéluctable, éthique et politique, la ruine de l'utopie émancipatrice ou libératrice dont il était porteur depuis quelques siècles, la destruction de sa force de protestation, l'extinction de son énergie spirituelle, l'oubli de sa vocation messianique, la désertification et la fin d'une promesse, d'autant plus grave qu'elle est inaperçue, une sorte de trahison machinée à l'insu de ceux Philippe Lacoulabarthe remarque sur Adorno et le jazz.
En interrogeant la manière dont le signifiant Platon fonctionne dans la philosophie d'Alain Badiou, Mehdi Belashkassem repose la question de la forclusion du mal par la philosophie. D'autant plus que l'art, et ce depuis Sade, c'est-à-dire aussi depuis la Révolution, expose l'immonde du monde. Si le monde vient avec l'immonde, le monde entendu ici comme production de la politique, la question politique ne saurait être simplement résorbée dans l'ontologique, le mathème, comme le propose Alain Badiou. Et si l'art est chose passée, ou autrement, si l'inesthétique est l'art débarrassé du mythe, comment constituer un héroïsme non mythologique, un héroïsme politique? Rencontre avec Mehdi Belashkassem.
Une émission
radiophonique.
Mehdi Belashkassem, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder un temps pour reparcourir votre dernier ouvrage que vous avez publié aux éditions Ligne, qui a pour titre « Inesthétique et Mimesis », sous-titre « Badiou, Lacoulabarthe et la question de l'art ». C'est publié chez Ligne dans la collection qui a pour titre « Fin de la philosophie ». Et nous verrons que ce livre n'est donc pas sans lien avec ces fins de la philosophie qu'on pourrait peut-être même mettre en point d'interrogation. Puisque, mais vous le préciserez, on peut dire que Badiou, le philosophe Alain Badiou, serait un philosophe qui récuse toute fin de la philosophie, alors que le philosophe Lacoulabarthe aurait fait de fin de la philosophie sa philosophie.
Bah, c'est bien résumé, au sens où bon, le titre « Inesthétique et Mimesis », c'est Badiou, Lacoulabarthe, disons, inesthétique, et le nom de la manière dont fonctionne l'art dans la philosophie d'Alain Badiou. Mimesis, c'est probablement le terme qui résume la réflexion de Lacoulabarthe sur la question de l'art. Ensuite, cette question de l'impasse de la philosophie, alors ça, je pense qu'on aura tout l'entretien pour aller un peu plus loin, donc je ne répondrai peut-être pas tout de suite sur la question de la fin de la philosophie. Tout ce que je peux dire, c'est que ce livre me sert peut-être à condenser, Il y a d'autres philosophes qui fonctionnent, disons, dans mon travail, Reinhard Schurmann, Agamben, quelques autres. Mais c'est vrai que Badiou et la Coulabarthe est celui qui a débloqué dans mon travail une réflexion sur la notion d'événement qui me démarque, qui me dégage un petit peu d'Alain Badiou. Donc vous avez bien résumé, c'est-à-dire qu'Alain Badiou, avec un ami a dit méchamment « restauration de la philosophie », c'est-à-dire tenure pour nul et non avenu, le diagnostic de la fin de la philosophie. On y reviendra aussi, enfin, je me répète. Badiou, c'est vrai qu'a fonctionné sur moi, toute proportion gardée par ailleurs, comme Kant à l'époque sur toute une génération d'intellectuels. Ça a été une vraie révolution intérieure. Et au-delà de ce qu'on appelle fin de la philosophie, ce qui est sûr, c'est que la lecture de Badiou m'a convaincu que il y avait autre chose que de la post-philosophie, que de la déconstruction, qu'une sorte de théorie sauvage comme je la pratiquais avant Badiou, et que avant d'en arriver à ce qu'on appelle fin de la philosophie, la syntaxe conceptuelle dans sa plus grande rigueur était à nouveau possible. Voilà. Donc pour moi la révolution a plus été technique que la philosophie au sens de ce que j'ai pu digérer plus tard de Badiou et avec quoi je suis pas sûr d'être à 100% d'accord, c'est-à-dire que sinon je ferais rien. C'est-à-dire, et là on vient à cette question de ce qu'on appelle fin de la philosophie, c'est-à-dire la philosophie est ordonnée au bien exclusif. Voilà. C'est pour ça que, plus tardivement qu'on ne croit, il fait jouer le signifiant Platon dans son discours. Platon est venu assez tard dans le parcours de Badiou, contrairement à ce qu'on croit, c'est venu en 91-92, sous la pression de gens comme François Pal qui disait, bon, voilà, c'est un, le système de Badiou est un platonisme moderne. Donc l'opération de Badiou consiste à dire, à refaire Platon, à répéter Platon en disant la philosophie est ce qui est ordonné exclusivement au bien. Alors, que dire contre ça? Pas grand chose. C'est-à-dire que si vous définissez la philosophie comme ce qui s'occupe exclusivement du bien, en fidélité à Platon qui disait exactement dans la République que le bien était beaucoup plus rare que le mal, que les maux étaient incommensurablement plus nombreux que le bien. Et donc au moment, mais c'est pas le même moment évidemment, Platon et Badiou, il y a quand même 2500 ans de distance, là, à ce moment-là, s'improvise la philosophie, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on est dans ce que la Coulabarthe appellerait, à la suite d'Hölderlin, le pathos sacré des Grecs. C'est-à-dire que pour les Grecs, dans leur espèce de transe religieuse permanente où ils étaient, et qui s'oppose à ce que Hölderlin appelle notre sobriété hespérique, c'est-à-dire que nous, on vit dans la sobriété comme dans notre élément normal, ce qu'aujourd'hui on pourrait appeler dépressionnisme, nihilisme démocratique, ce que vous voudrez, postmodernisme. Donc, il y a un remake de Badiou en disant « La philosophie, c'est ce qui s'occupe exclusivement du bien. » Que dire contre ça? Pas grand-chose. À part que, évidemment, chez Badiou, il va y avoir une espèce de... Tout ce qui s'occupe autre chose que du bien, ce n'est pas de la philosophie, si vous voulez. Alors là, on revient à cette grande concurrence entre les Grecs et les Allemands. Si on est un peu allemand, ce que je crois être plus que Badiou, en tout cas, de ce point de vue-là, plus allemand que grec, peut-on appeler philosophie, c'est ça ma grande question, disons, après Badiou, quelque chose qui s'occuperait du mal, des conditions du mal, en tenant compte de ces 2500 ans de distance. Chez Badiou, c'est nul et non avenu, rien ne s'est passé entre-temps. Le fait est que depuis Platon, les maux sont toujours incommensurablement plus nombreux que le bien. Ma grande question, c'est est-ce que la philosophie, et puis il y a déjà eu des exemples, Schelling, il y a eu toutes les philosophies négatives après Auschwitz, Adorno, Lacoula Barthes, Rainer Schurman, Agamben et quelques autres. Peut-on appeler philosophie quelque chose qui. Ou même le moment hegelien, c'est-à-dire décrire l'histoire comme une boucherie absurde, mais qui découle malgré tout sur l'anthropogenèse proprement dite. Donc voilà la question que j'adresse à Badiou, à Lacoula Barthes, même s'il n'est pas. Au-delà de la fin de la philosophie, telle que décrite par Lacoula Barthes, peut-on, après Lacoula Barthes, quand je dis que j'ai trouvé ma notion d'événement chez Lacoula Barthes, c'est-à-dire dans les lectures géniales que Lacoula Barthes propose de l'Orline, ça m'a ouvert la voie à un concept de l'événement, oui, qui s'est vraiment dégagé de Bayou, et qui en tout cas tient compte de, pour le dire vite, de la question du mal, qui est le sujet de ce petit livre, dans la genèse de ce que Bayou par ailleurs appelle les vérités éternelles, auxquelles je ne crois pas du tout. Moi je crois qu'il n'y a que des vérités éternisées, purement anthropogénétiques, je ne pense pas. Vérité éternelle, ça fonctionne comme un signifiant dans son travail, mais les vérités éternelles comme ça, ça nous engagerait un peu trop loin, mais disons que j'y crois pas. Je pense qu'il y a des vérités éternisées et à travers des processus. Donc de ce point de vue-là, je suis plus hegélien que platonicien. Décrire le processus de... Oui, d'horreur, de souffrance... que traverse l'humanité pour produire effectivement des vérités.
Alors cette question du mal, on le verra, elle est traitée du côté de l'art. Cet ouvrage, en fait, c'est un dépôt de deux conférences. Mmh. Une première conférence qui a pour titre Alain Badiou, esthétique et politique. Et une seconde conférence qui a pour titre Lacoula Barthes et la question de l'héroïsme. Donc on a lié esthétique, politique, héroïsme. Mmh. Et à la fin de l'ouvrage, la conclusion serait celle-ci: comment constituer un héroïsme non mythologique, un héroïsme politique.
Bah, l'intitulé de cette conférence m'est venu de la lecture à la mort de Lacoula Barthes, bon, un texte d'un de ses élèves, Bruno Taquels, qui a publié par ailleurs un très beau livre sur Walter Benjamin, et qui disait ce cliché très très postmoderniste ou démocratique de la fin de tous les héroïsmes. Et j'ai bondi, mes cheveux se sont hérissés parce que en lecteur assidu de Lacoula Barthes, il était très clair pour moi que chez Lacoula Barthes, il y a une théorie de l'héroïsme, justement sur Walter Benjamin, qui est toujours qualifié en termes héroïques, sur Baudelaire, pour citer, même si ce n'est pas forcément les exemples que donne Lacoula Barthes, si, sur Paul Celan, le mot héroïsme est utilisé. Voilà, qu'est-ce qu'un héroïsme, disons, après Auschwitz, qu'est-ce qu'un héroïsme à l'époque de Beckett ou d'Adorno, c'est parti de là. Et sa réflexion ensuite sur le mal, c'est faire dialoguer Lacoula Barthes et Badiou. Effectivement, dans cette première conférence donnée en présence de Badiou, Badiou avait dit oui, Mehdi a raison, Lacoula Barthes est quand même probablement mon plus grand interlocuteur sur la question de l'art. Et donc c'est d'interroger Badiou, mais c'est une question qui n'est plus exactement une question du disciple que je suis par ailleurs au maître qu'il a été, qui demeure... Mais c'est évidemment une manière de faire fonctionner mon propre travail, c'est de poser toujours la même question: est-ce que la philosophie, s'il n'y en a qu'une, il y a des énoncés de Badiou qui, il n'y en a qu'une, la sienne, c'est-à-dire la platonicienne, Est-ce que on peut appeler philosophie, est-ce que la philosophie peut se définir, disons, bon, on est en 2010, toujours de la même manière, par la forclusion de la question du mal, en disant, c'est une phrase qui me travaille beaucoup, une phrase un peu d'agit-prop, comme il y en a ponctuellement chez Badiou, de dire le mal n'est qu'une catégorie de la théologie ou de la morale, qui n'est qu'une théologie dégradée. Or, je crois que si la philosophie laisse la question du mal, déjà à l'art, ça on y reviendra puisque c'est le propos du livre, depuis Sade et Goya et quelques autres, l'art est pas exclusivement, mais disons en grande partie, ordonné à la question du mal, ça c'est l'évidence, jusqu'à aujourd'hui compris. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, parce que Sade ou Goya faisaient figure à l'époque d'exception, de prophète annonciateur. Maintenant, le mal est devenu le lieu commun de l'art au sens le plus diffus, courant, l'art de masse, le cinéma. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'en 2010, on peut toujours appeler philosophie ce qui se définit par la seule étude du bien, des vérités éternelles, comme si elle sortait comme ça de processus qui n'implique pas ce qu'on peut appeler le mal. En tout cas, je crois que si la philosophie ne se redéfinit pas par rapport à cette question-là, c'est ce que je dis dans le livre, je pense que la morale et la théologie se serviront abondamment. Et que c'est d'ailleurs ce qu'elles font, ce qui définit notre époque, c'est ça. Donc, quelle que soit la grandeur de la réussite systématique et philosophique de Badiou, je crois qu'on ne peut pas s'en tenir là. Ça engagerait évidemment une longue discussion, mais enfin, pour résumer, on ne peut pas s'en tenir là. L'époque le prouve, on ne peut pas s'en tenir à. Comme dirait Badiou, incorporons-nous à une vérité éternelle et puis tout sera sauvé, en quelque sorte. Je crois que vraiment la philosophie doit prendre ses responsabilités, et c'est ça que je voulais dire, c'est que, qui n'est pas exactement dans le livre, mais ça a affleuré après Kant, sa question du mal, chez Hegel avec la question de la négativité, plus tard chez Nietzsche avec la question du nihilisme, mais finalement la question du mal en tant que telle a été, jusqu'à aujourd'hui, assez peu traitée. Il y a eu Schelling qui a proposé un concept grandiose du mal dans ses essais sur la liberté humaine. Et après, il y a peut-être Rainer Schurmann récemment. Il y a eu la hantise du mal. Mais c'est pas tout à fait la même chose que de faire une philosophie du mal, une métaphysique du mal. Schelling l'a presque fait, mais il a abandonné, il est passé à la philosophie positive. Il y a eu une fascination du mal, surtout chez les penseurs du XXe siècle. Donc il y a quelque chose qui a affleuré dans la pensée du XXe siècle, déjà dans celle du XIXe, avec Schopenhauer, Nietzsche, Marx à sa façon, Hegel déjà, Schelling bien sûr. Mais tous ces gens-là, et ensuite au XXe siècle, pareil, il y a eu Bataille un petit peu précurseur, en tant que non-universitaire à moitié fou, comme presque toujours les philosophes non-universitaires. Ensuite, il y a eu Auschwitz, Adorno, Schurmann, Lacoulabart, Agamben. Mais chez eux, il n'y a pas à proprement parler, même chez Agamben, une métaphysique du mal. C'est comme si ce qui donne raison des fois à l'espèce de polémique provocatrice de Badiou, quand il dit dans une interview « Oh, moi je ne suis pas d'accord avec ce fait qu'il y aurait une archi-évidence du mal. » Bon, moi je suis tout à fait... Non, pas d'accord, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas s'en tenir à l'archi-évidence du mal, mais il faut produire une espèce d'anthropologie, d'anthropogenèse, un peu en mode hegelien, là encore, toute proportion gardée, mais qui décrive l'engendrement presque technique de la question du mal. Et surtout qui démontre, en quelque sorte, et ça, c'est vraiment, on est au cœur de ma polémique avec Badiou, qui démontre... l'entrelacement, l'incoation, ma foi assez évident, entre la production de ce qu'il appelle les vérités, le bien, et ben la question du mal, enfin le prix qu'il faut payer, et pas seulement en politique. en amour. Bon, pour donner un exemple très très simple, si on dit il y a juste la vérité éternelle de l'amour, je ne sais plus comment s'appelait le livre là, le petit livre qu'il avait, Éloge de l'amour, bon, le couple sur la durée, etc. Et puis les grandes histoires d'amour, Didon et Énée, etc. On avait discuté de ça. Je disais, bon, ça dépend quand même de la sexualité. Il dit, ah, mais là, vous dites que dès qu'il y a situation. Si, ça dépend pas seulement de la sexualité, ça dépend de quelque chose. C'est pas par hasard qu'on dit la prostitution, c'est le plus vieux métier du monde. Et si on n'explique pas, quelque part, comment est-ce que la prostitution est une sorte de rapport originaire entre sexe dans la clôture anthropologique, pas ailleurs, il n'y a pas de prostitution chez les autres mammifères, on n'explique pas non plus l'amour. Voilà. Et non seulement on n'explique pas non plus l'amour, mais on n'explique pas comment, massivement, Platon ou les pères de l'Église ou saint Thomas d'Aquin ou Alain Bastiat aujourd'hui n'y pouvant mener, la prostitution revient massivement dans notre monde. Voilà. Donc c'est là on est au cœur de la polémique. Je suis retombé du reste, là on revient à la Coulabarthe, sur un entretien où il disait quelque chose qui m'a quand même beaucoup frappé, parce que c'est très très vrai. Il dit que tout simplement l'argent est pour l'être humain un rapport, quelque chose aussi originaire que le langage. Voilà, il faut partir de là. Il faut partir du fait que, là encore, plus hégélien que platonicien, plus allemand que grec. Par exemple, en politique, on ne peut pas parler comme Bayeux. Il y a simplement les vérités éternelles de la politique, qui en gros sont épinglées au non-communisme. Tout ça, je suis tout à fait d'accord. Sans parler du fait que la planétarisation de l'espèce humaine, la mondialisation de l'espèce humaine, a ses conditions de possibilité, c'est-à-dire que le communisme où nous sommes déjà, c'est-à-dire le fait d'être en commun comme aucune autre espèce animale n'est en commun, a ses conditions de possibilité qui sont la technique, l'argent, la prostitution, l'esclavage, c'est-à-dire des choses pas jolies jolies. Après, en mode hégélien, oui, je pense que pour mettre l'accent sur la manière dont, malgré tout, nous pouvons surmonter ça, et dans une certaine mesure, nous l'avons surmonté. C'est pas pour dire contentons-nous de ce qu'il y a, mais d'ouvrir les yeux peut-être sur ce qui n'est pas uniquement dans notre époque nihilisme, négativité, horreur, ennui, dépression. Ça engage bon, des interrogations philosophiques qui n'intéressent pas du tout Badiou, comme celle du droit. Donc moi, je lui signale que bon, Platon a quand même fini sa carrière en écrivant les lois, c'est-à-dire la question de la législation, pas au sens ontologique qui est celui de Badiou, mais au sens proprement politique. C'est-à-dire que la question politique, pour moi, ne peut pas être résorbée dans l'ontologique, comme le fait Badiou, par ailleurs avec génie, mais c'est un peu comme Spinoza. On voit un peu ce que donne la politique spinoziste aujourd'hui à travers Toni Negri, etc. Et le défaut de tout ça, c'est que Badiou, d'un côté, essaye d'activer la politique en tant que politique indépendante de la philosophie, mais à l'intérieur de sa philosophie, on constate que la politique est vraiment résorbée dans l'ontologique, c'est-à-dire dans les catégories mathématico-logiques. Tout ça, ça va ensemble, c'est-à-dire que la production du mal est quelque chose aussi surnuméraire que ce que Badiou appelle l'événement. Et le fait que cette question du mal soit quelque chose en plus, c'est une sorte de luxe négatif, c'est le négatif du luxe. C'est le miroir du luxe que nous, êtres humains, nous offrons au-dessus de la nature. Tout ça pour dire que la politique elle-même s'enlève d'évidence sur une condition négative, et que si on ne met pas l'accent sur cette condition négative, personnellement, je ne vois pas de raison de faire de politique. Si on dit comme Badiou, le mal n'existe pas.
Ce mal, en tout cas, vous dites que depuis Sade, au moins, l'art est ce qui expose le déchet comme production, c'est-à-dire l'immonde.
Ce n'est pas l'art lui-même, c'est la technologie anthropologique qui produit le déchet. Ça aussi, c'est polémique avec le lacanobadiusisme, c'est-à-dire la dialectique de ce qu'ils appellent le manque et l'excès. Moi, je dis qu'entre le manque et l'excès, il y a un troisième terme qui est le déchet. C'est toute la question de l'écologie, donc comme par hasard, Badiou ne veut faire aucun cas aujourd'hui. L'art ne produit pas lui-même le déchet. L'art, disons, montre cette production. Expose cette production. Et de ce point de vue-là, ça n'a pas bougé depuis Aristote, sauf que, bon, je cite cette phrase d'Aristote, qui est très célèbre dans la poétique, où il dit que nous avons plaisir à voir dans les œuvres d'art des choses qui nous dégoûtent dans la réalité, c'est-à-dire des corps en décomposition, des choses comme ça, enfin une charogne de Baudelaire. Aujourd'hui, par là, il décrit vraiment ce qui est devenu très célèbre, l'opération cathartique elle-même. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on n'a pas eu besoin de Marcel Duchamp. L'art est d'ores et déjà. C'est vrai que je me suis dit, en relisant cette phrase d'Aristote, je me suis dit, ce qui est curieux, et ce qui donnerait, avec beaucoup de mauvaise foi, mais raison quelque part à Badiou, c'est que rien. Il y a évidemment le document de la tragédie grecque, mais au niveau pictural, rien ne nous est resté des Francis Bacon grecs, tels que les décrit Aristote, alors qu'il devait y en avoir, d'après ses descriptions, il y avait apparemment des peintres ou des sculpteurs. Je me suis dit, c'est quand même une phrase assez mystérieuse quand il dit « nous prenons plaisir à voir représenter des choses comme des cadavres en décomposition, etc. » Je me suis dit, c'est bizarre, parce qu'il n'y a pas une seule statue, il n'y a pas une seule peinture qui nous soit restée de l'art grec qui expose ça. L'art grec nous est resté tel qu'il a été canonisé dans l'esthétique philosophique. Justement, les beaux corps, les belles peintures, le beau temple, etc. Alors que cette phrase d'Aristote semblerait indiquer que, à part la tragédie qui nous expose des choses gore de chez gore, comme on dit aujourd'hui, il semblerait qu'il y ait eu cette phrase indiquée. Et là intervient la coulabarde, c'est-à-dire que cette opération cathartique, qui consiste, comme fera plus tard Marcel Duchamp, qui ne fait que littéraliser, isoler, réinventer le geste, qui est le geste à l'état pur de l'art, c'est-à-dire que de prendre une négativité, quelque chose d'immonde, d'horrible, d'abject, quelque chose qui nous repousse dans la réalité, de le déplacer, d'en faire une installation, et tout à coup, ça devient quelque chose dont nous tirons un plaisir. Et il ne s'agit pas du tout d'interroger, même si on pourrait le faire, la chose d'un côté moral, c'est-à-dire que l'art, à ce moment-là, jouerait avec la pulsion humaine, sadique, de jouir, de... C'est l'opération, et ça, la Coulabarde l'a très très bien montré, c'est l'opération mimétique elle-même, c'est-à-dire qu'en répétant quelque chose, en imitant quelque chose, on en fait autre chose. Et là, le coup de génie de la Coulabarde, en relisant Rousseau, il a montré que dans ce processus, il y avait le processus hegélien par excellence, qui est celui de l'aufhebung, de la relève-suppression. On supprime quelque chose, mais on le conserve dans une espèce de progrès de l'esprit et de l'humanité. Et ça, c'est une découverte vraiment fondamentale, puisque ça démontre que l'aufhebung de Hegel n'est pas autre chose que la catharsis d'Aristote. Mais c'est quand même autre chose, parce que c'est une sorte de catharsis étendue absolument tout. Et ça, on constate que c'est pas des élucubrations, excusez-moi, des élucubrations de philosophes, mais que c'est, à proprement parler, la manière dont l'humanité fonctionne, littéralement et dans tous les sens et tous les jours. Alors évidemment, l'ombre à ce beau tableau, c'est que... Je suis pas le premier, du reste je le fais pas à Hegel parce que ça a tellement été fait, mais évidemment le reproche qui a beaucoup été fait à Hegel, c'est non, l'histoire n'est pas un processus continu de progrès qui va vers le mieux, etc., etc., etc. Oui et non. Le mal revient, ça c'est incontestable, dans le travail je sais y insister. Mais nous ne comprendrons rien à notre être anthropologique, à notre devenir anthropologique, si nous ne comprenons pas ça non plus. C'est-à-dire que ce que la Coulabart montre indirectement, c'est une sorte de processus archi-esthétique qui consiste à ce que nous emparions d'une matière, que nous la supprimions en la déplaçant ailleurs pour en faire autre chose. Voilà. Comme la bicyclette de Duchamp, c'est presque la même chose, et ça a plus rien, ou la pissotière, ça n'a plus rien à voir. C'est une fontaine.
Et vous associez cela à la transgression. Vous dites qu'il en va de même pour la science, par exemple.
Ben, c'est-à-dire que, alors là, on touche au cœur de bon, ce qui était mon gros livre d'avant, là, l'esprit du nihilisme, où je développais système, c'est peut-être beaucoup dire, mais disons systématique, ou système au sens ancien, c'est-à-dire réunir des choses qui sont disparates, et démontrer des processualités qui n'ont pas été vues ailleurs. Alors là encore, polémique, disons, avec Badiou, au sens où, lui, il va séparer les vérités dites éternelles entre elles, d'un côté la politique, de l'autre la science. À l'intérieur, son système, ça fonctionne extrêmement bien, et c'est pas... Mais évidemment, c'est en polémiquant qu'on invente sa propre chose, et inventer sa propre chose, c'est pas exactement... C'est pas faire son original, mais c'est faire voir quelque chose qui s'impose... à tous les regards qui veulent bien se pencher dessus, qui devient évident, comme si on l'avait toujours vu. Voilà. Ce qui est évident, c'est que la politique naît de la science. Je ne sais pas si je dois développer toute la... Ce que j'ai démontré dans ce livre, c'est que la science a la structure d'une transgression. C'est ce que la religion a appelé le péché originel. Le péché originel, ce n'est pas du tout des histoires de quéquette, comme on le croit communément. Attends, et avec ça, même si il y a un lien obscur qui mérite d'être interrogé, je le ferai dans un travail qui viendra. La science a la structure d'une transgression, et la politique est une sorte de reterritorialisation, en règle surnuméraire, de cette transgression qui déjà a fait de l'animal humain un être historique, ce qui est déjà jusqu'à plus informé exclusivement anthropologique. Mais d'autre part, c'est toujours cette polémique avec peut-on résorber le politique dans le logico-mathématique? Et effectivement, je crois que non. C'est-à-dire que, j'ai pas dit, vous voyez, la science, la politique, c'est séparé, il faut s'occuper des vérités de la science, il faut s'occuper des vérités de la politique. Dans mon raisonnement, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Et ça, c'est venu de la Coulabart et des lectures. C'est pour ça que ce petit livre condense un petit peu l'essentiel, au sens où qu'a déclenché la Coulabart à l'intérieur de Badiou pour moi. La Coulabart ou Hölderlin ne disent pas comme ça, mais c'est leur lecture qui m'a amené à ça. C'est-à-dire que tout commence par la transaction, tout commence par le silex ou... l'agriculture à la place de la cueillette, ou la chasse à la place de la prédation, jusqu'aux mathématiques et à la logique, et que ce fait de la science, qui est tombé sur... Personne n'en a décidé, même pas celui qui a frotté le silex. Par contre, celui qui a frotté le silex, s'il n'avait pas eu une pulsion archi-esthétique, le silex serait resté un accident. C'est-à-dire, il l'aurait frotté, il y aurait eu du feu, ça lui aurait fait peur, et puis on ne l'y aurait plus repris. Non, la science a commencé, le critère de la science, c'est la répétabilité. Donc il y a quelque chose aussi d'archi-esthétique, de mimétique dans la science. Il a répété ce silex, il a frotté deux fois. Pareil avec l'agriculture, la chasse, et ensuite les sciences beaucoup plus développées. Et la politique naît de la surpuissance technologique, architechnologie, dirait la Coulabart, qui s'ensuit comme ça de ce fait de la science, de ce fait archi-transgressif de la science. La politique, c'est la tentative, je dis bien la tentative, de trouver de nouvelles lois pour équilibrer le déséquilibre qui s'installe non seulement à l'intérieur de l'humanité, mais comme on le voit aujourd'hui, parce qu'on le voit depuis toujours, puisque ça date de la chasse, l'exploitation des autres animaux, de la nature, l'écologie, maintenant c'est Voilà, c'est les plantes elles-mêmes, c'est l'agriculture elle-même. La politique est depuis toujours la tentative de renormaliser l'état d'exception où se met lui-même l'être humain à cause de la science. Voilà. Ce que je résume en axiome, qui est une polémique avec toute l'histoire de la philosophie, la transgression précède la législation. C'est-à-dire qu'il faut s'habituer maintenant, ce qu'on appelle habituellement transgression. Alors c'est facile de se moquer, et évidemment les gens, dès qu'ils ont lu le quatrième de couverture de l'Esprit Unis, tout de suite il a fallu caricaturer, ah la transgression, ah là là. Non, ce que j'entends par transgression, si je l'ai écrit, c'est précisément pour amener un petit truc nouveau. Ce qu'on a appelé habituellement transgression, pour moi c'est transgression seconde qui s'ensuit des règles du politique. Ce que j'appelle transgression fondamentalement, c'est cette transgression-là, c'est ce fait de la science qui fait que l'animal humain se dépasse lui-même, dépasse ses limites finies. Il devient, au sens strictement physique, comme l'a bien vu Rousseau, un sous-animal, un animal avec moins de réflexes, moins de vitesse, moins d'énergie. C'est peu de le dire, avec des clochards, des déchets, comme on dit, humains. Ça, on ne le constate pas chez les autres animaux. C'est une question que je pose aussi, je dis, est-ce que la philosophie, en 2010, est capable de nous expliquer pourquoi, quand même, l'animal le plus puissant, nous, est le seul à connaître un phénomène comme la famine ? Pour moi, ce n'est pas une question indigne de la philosophie. Socrate demandait, est-ce qu'il y a une idée de la boue, de la crasse, etc. Toujours la même polémique, voilà, dont le centre est effectivement ce dialogue Lacoue-Labarthe-Badiou.
Et cette transgression, c'est l'événement alors ?
Cette transgression, c'est l'événement en tout cas scientifique. C'est l'événement scientifique. Alors, ensuite, dans l'état actuel de mon travail, il faudrait affiner. Commencer par exemple, c'est la polémique avec Giorgio Agamben, ce qu'il appelle profanation m'a semblé être une sorte de revival, justement de la grande transgression artistique telle qu'à la cour depuis Sade jusqu'à Pasolini. Un des propos de mon livre, donc c'est une discussion un petit peu sur ce qu'on appelle le postmoderne, c'est vrai que depuis une trentaine, quarantaine d'années, on assiste à un devenir parodique de la transgression, c'est-à-dire dans l'art contemporain au sens strict, enfin, ce qu'on appelle les beaux-arts, les arts plastiques et ça. Mais pas seulement, le cinéma aussi, on se permet à peu près tout, au niveau violence, sexe, etc., des choses qui, il y a encore 40 ans, étaient dites interdites. Alors évidemment, un film, disons, pornographique va être classé X et interdit au moins de 18 ans. On sait très bien ce que font les moins de 18 ans à partir de 12 ans aujourd'hui. Donc, moi je serais presque pour plutôt interdire des films aux plus de 18 ans, il y en a beaucoup aujourd'hui, il faudrait créer une commission de censure qui ferait exactement l'inverse, toutes les œuvres infantilisantes, voilà. Mais je ne veux pas me mettre à parler comme tu disais, que si j'étais dictateur, l'événement, oui, voilà, donc pour moi, oui, transgression, science, voilà, c'est une sorte d'archi-événement. Donc après, il faudrait affiner sur... dans chaque procédure, comment se dialectise, donc c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Agamben, son concept de profanation, une sorte de revival de ce qui a été effectivement la grande transgression artistique depuis Sade jusqu'à Pasolini. C'est-à-dire que ma question, dans une esthétique et mimésis, mais déjà dans l'esprit du nihilisme, c'est de revenir précisément, une fois, c'est la fameuse chouette de Minerve de Hegel, c'est-à-dire on arrive toujours après. Sans doute parce que dans ma jeunesse, j'ai été très nourri de ça et que j'étais moi-même une sorte de transgresseur héroïque dans un de mes premiers écrits, et dans mes premiers écrits, pardon. Et mes héros étaient les transgresseurs héroïques. C'était Baudelaire, Artaud, jusqu'à Pasolini, Genet, Francis Bacon, etc. Une très grande partie de l'art contemporain, ça c'est un diagnostic très très facile à établir, a été celui d'un héroïsme de la transgression. Évidemment, Sade est un nom qui brille d'un éclat tout à fait particulier dans cette généalogie-là. Mais c'est en même temps cette mélancolie, qui est assez vite devenue la mienne dans mon parcours, de se dire à un moment, c'est fini. C'est fini, mais comment est-ce que c'est fini? Pourquoi est-ce que c'est fini? De quelle manière est-ce que c'est fini? C'est fini parce que c'est banalisé, parce que tout le monde transgresse, mais en même temps toujours avec une sorte de clin d'œil parodique en disant... Ou alors c'est un forcing au pur effet de violence, quoi, au pur choc dans le cinéma, dans des installations. Je le dis pas forcément en mauvaise part par ailleurs. Hein, certaines de ses œuvres ont énormément de valeur pour moi. Mais pour moi, la question, c'est qu'ont voulu nous dire, forcément inconsciemment, tous ces artistes en valorisant comme ça la transgression. Parce que ça, par contre, c'est quand même nouveau dans l'histoire de l'art, ça c'est incontestable. Avant ça, l'art n'était pas ordonné spécifiquement à la transgression en tant que telle. Elle parlait à l'époque des Grecs dans la tragédie de la transgression, mais pas pour la valoriser, mais pas forcément non plus pour la dévaloriser. Ce que dit le destin d'Œdipe ou d'Antigone, c'est le rôle que joue la transgression dans la cité. Et c'est un rôle évidemment... à chaque fois politique. Donc l'art expose, a exposé depuis ça, la transgression en tant que telle, a valorisé la transgression en tant que telle, ce que ne faisait pas Sophocle.
La littérature et le mal, par Georges Bataille.
Monsieur Georges Bataille, je voudrais que nous examinions le titre d'abord de ce livre avant d'entrer dans le livre lui-même. Le titre déjà permet de poser un certain nombre de questions. Quel est le mal dont vous parlez?
Il y a, je crois, deux sortes de mal qui s'opposent principalement. L'un qui tient à la nécessité que les choses humainement se passent bien et aboutissent au résultat voulu. Et l'autre qui consiste à enfreindre positivement certains interdits fondamentaux, comme par exemple l'interdit du meurtre ou l'interdit de certaines possibilités sexuelles.
Oui, il y a le mal faire et le mal agir.
Oui.
Est-ce que ce titre veut dire que le mal et la littérature sont inséparables, fondamentalement?
À mon sens, oui. Évidemment, cela n'apparaît pas clairement au premier abord, mais il me semble que si la littérature s'éloigne du mal, elle devient vite ennuyeuse. Cela peut étonner. Cependant, je crois qu'on doit apercevoir assez vite que la littérature doit mettre en cause l'angoisse, que l'angoisse... est toujours fondée sur quelque chose qui va mal, sur quelque chose qui tournera gravement mal, sans doute, et que c'est en mettant le lecteur dans la perspective, ou tout au moins devant la possibilité d'une histoire qui tournera mal pour ceux auxquels il s'intéresse, pour simplifier la situation du roman, c'est en mettant le lecteur devant cette perspective désagréable qui crée une tension que la littérature évite d'ennuyer le lecteur.
Par conséquent, un écrivain, ou en tout cas un bon écrivain, est toujours coupable d'écrire.
La plupart des écrivains n'en ont pas conscience, mais je crois à cette culpabilité profonde. Écrire et tout de même faire le contraire de travailler. Ça ne semble pas très logique, peut-être, mais toutefois, tous les livres amusants sont des efforts qui sont soustraits au travail.
Pouvez-vous nous citer un ou deux écrivains qui auraient justement éprouvé la culpabilité d'écrire, enfin, qui se seraient sentis coupables d'être écrivains?
Eh bien, il me semble qu'il y en a deux que j'ai cités dans mon livre, d'ailleurs, qui se distinguent très particulièrement dans ce sens. Ce sont Baudelaire et Kafka. L'un et l'autre ont eu conscience qu'ils se mettaient du côté du mal, et que par conséquent ils étaient coupables. Chez Baudelaire, c'est sensible dans le fait qu'il a écrit sous le titre « Des fleurs du mal », sa pensée qui lui tenait le plus à cœur, et quant à Kafka, s'est exprimé avec encore plus de netteté. Il a considéré qu'en écrivant, il désobéissait aux siens et que par conséquent, il se mettait dans une situation de culpabilité. Il est vrai que sa famille lui faisait sentir qu'il était mal de consacrer sa vie à écrire, que le bien, c'était de suivre l'exemple que l'on avait toujours suivi dans la famille, d'avoir une activité commerciale, et qu'en se soustrayant à ce devoir, on agissait mal.
Oui, mais là, être écrivain est être coupable pour Kafka ou pour Baudelaire, parce que être écrivain, ça n'est pas très sérieux. Enfin, c'est ça le sens des parents,
si l'on veut,
oui. Baudelaire. Mais cette culpabilité est sentie par eux comme un enfantillage. Enfin, ils se sentent coupables d'enfantillage parce qu'ils écrivent. Pensez-vous vraiment que Baudelaire et Kafka se soient sentis coupables d'enfantillage lorsqu'ils écrivaient ?
Je crois que très expressément, et même d'une façon parfois exprimée, ils se sont sentis dans la situation de l'enfant devant les parents, de l'enfant qui désobéit et qui par conséquent se met dans une situation de mauvaise conscience parce qu'il se rappelle des parents qu'il a aimés et qui lui ont constamment dit qu'il ne devait pas faire cela, que c'était mal, et cela dans le sens le plus fort du mot.
Mais si la littérature est un enfantillage, ou s'il est coupable, si on est coupable d'écrire parce que la littérature est un enfantillage, vous pouvez penser que la littérature est donc une chose très puérile, en fait.
Et je crois qu'il y a quelque chose d'essentiellement puéril dans la littérature. Cela peut paraître un peu inconciliable avec l'admiration que l'on peut avoir par ailleurs pour la littérature, et que je crois partager, mais je crois que c'est tout à fait profond, que c'est fondamental et que l'on ne peut pas entièrement comprendre ce que signifie la littérature si on ne la situe pas du côté de l'enfant, ce qui ne veut pas dire qu'on la situe d'une façon inférieure.
Oui. Vous avez écrit un livre sur l'érotisme. Est-ce que l'érotisme en littérature est un enfantillage, selon vous ?
Je ne sais pas si la littérature se distingue de l'érotisme en général à cet égard, mais il me semble qu'il est très important d'apercevoir le caractère enfantin de l'érotisme dans son ensemble. Est érotique quelqu'un qui se laisse fasciner comme un enfant par un jeu et par un jeu défendu. Et l'homme que l'érotisme fascine est tout à fait dans la situation de l'enfant vis-à-vis de ses parents. Et il a peur de ce qui pourrait lui arriver et il va toujours assez loin pour avoir peur. Il ne se contente pas de ce dont les adultes vraiment sains se contentent. Il lui faut avoir peur. Il lui faut se retrouver dans la situation où il était enfant et où il était menacé constamment d'être grondé, même très sévèrement, d'une façon insupportable, intolérable.
J'ai pu laisser entendre, vous avez peut-être pu laisser entendre aussi que cet enfantillage ou cette puérilité, vous les condamniez. En réalité, je pense qu'il serait bon de revenir au titre de votre livre, et encore une fois, à la littérature et le mal. Ce n'est pas une condamnation de la littérature ni du mal. Je voudrais que vous indiquiez la direction générale de ce livre.
Il est certain que c'est une mise en garde. C'est-à-dire que l'on doit mettre en garde contre un danger. Mais il est possible que lorsqu'on a mis en garde contre un danger, on donne à celui que l'on a mis en garde des raisons de l'affronter. Et je crois qu'il est essentiel pour nous d'affronter le danger que représente la littérature. Je crois que c'est un très grand et très grave danger, mais que l'on est vraiment homme qu'en affrontant ce danger. Et je crois que c'est dans la littérature que nous apercevons les perspectives humaines restituées sous leur jour le plus entier. Parce que la littérature ne nous laisse pas vivre sans apercevoir les choses humaines dans leur perspective la plus violente. Que l'on songe à la tragédie, à Shakespeare, et il y a de multitudes d'aspects du même genre. C'est tout de même la littérature qui nous permet de voir le pire et de savoir lui faire face, de savoir le surmonter Et somme toute, cet homme qui joue trouve dans le jeu la force de surmonter ce que le jeu entraîne d'horreur.
Merci.
Il y a de la transgression dans la clôture anthropologique. Alors comme chez Sade, ceux qui transgressent, c'est ça la différence, disons, entre Sade et Pasolini. Chez Pasolini, il y a un propos éthique. Chez Sade, avec la naïveté héroïque qui était la sienne, on montre bien que ceux qui transgressent, c'est ceux qui détiennent le pouvoir. Ce qui, d'une certaine manière, est plus profond, parce que la grande aporie de la philosophie contemporaine depuis Heidegger... Foucault, Agamben ou Rainer Schurmann ont mis un petit peu cette question à plat, c'est que fondamentalement pour l'être humain, au sens civique, au sens politique, au sens judiciaire, la loi et la transgression sont strictement la même chose. C'est là où nous sommes vraiment aujourd'hui dans de beaux draps. Mais c'est un problème philosophique, et ça je dois dire, toujours pareil, c'est le fait que je travaille après Bayou, ce pas au-delà de Bayou, c'est l'insatisfaction sur ces questions-là, parce que de ce point de vue-là, je suis beaucoup plus proche de Foucault, Agamben ou Schurmann dans ce questionnement. C'est-à-dire que la question transgressive législative n'a rien à voir avec l'ontologique, ou, pour moi, en tout cas, au sens où en parle Bayou. C'est vraiment la question, telle que dans le dernier Platon ou dans le dernier Hegel, c'est la question très épineuse, que je n'ai pas encore abordée en tant que telle dans mon travail, la question du droit, voilà, du droit. Et c'est, ça, c'est la différence, par exemple, pour moi, c'est un peu une boucle historiale que j'ai dessinée dans mon travail, de Sade à Pasolini, disons, le temps artistique de la grande transgression héroïque commence avec Sade et termine avec Pasolini. La différence, c'est qu'évidemment, chez Sade, c'est précisément ceux qui détiennent la loi et le pouvoir qui transgressent en plus, qui font du mal aux autres. Chez Pasolini, même s'il finit justement par adopter Sade, ce qui est un diagnostic extrêmement pessimiste et nihiliste sur les possibilités de la politique à l'époque, ce qui est un accusé réception, justement, à mon avis, chez Pasolini, très désespéré... de ce qu'il voyait venir, de ce que nous, on est obligés de c'est-à-dire d'une démocratisation de la transgression, d'une normalisation de la transgression, que Pasolini, jusque-là, avait, fidèle à un certain modernisme romantique, cet héroïsme de la transgression, c'est bien. Mais chez Pasolini, c'est vrai que jusque-là, c'était plutôt le bon prolétariat, le bon révolté, qui transgresse les normes du pouvoir qui est au-dessus et qui est en place. Et ça, c'est très différent de chez Sade, où et chez Sade, c'est peut-être plus profond, au sens où... en ce simple sens, de montrer que la plupart du temps, ceux qui transgressent vraiment, c'est, aujourd'hui comme hier, les gens les plus puissants. Ce qui peut-être, je dis bien peut-être, nous donnerait dans le domaine politique le critère de discrimination, disons, entre une bonne, entre guillemets, transgression, c'est-à-dire une transgression réellement événementielle, qui est forcément une transgression de ceux qui n'ont pas de droit, qui sont en dessous de la loi, et qui arrivent à renverser cette situation. Et la transgression, disons, normale, qui est celle du crime courant, et y compris du crime, disons, de droit commun. Même si, bon, des gens comme Foucault ou Pasolini, sans doute aidés en cela par leur sexualité à l'époque minoritaire, monstrueuse. Et ça encore, c'est des questions qui, à mon grand scandale, n'intéressent pas du tout Bayou. Comme dit Rainer Schurmann, c'est au nom de la nature, qui est le grand fantasme hégémonique de l'époque médiévale, et donc c'est le fantasme qui donne ses lois civiques à toute une époque, c'est en ce nom-là qu'on brûle les sodomites. Alors, au nom du platonisme, de ne s'occuper que du bien, etc., on ne va pas s'occuper, ou ces questions-là ne sont pas politiques, par exemple. En quoi je ne suis pas du tout d'accord. Enfin, c'est la question du féminisme aussi. Bien sûr que le féminisme a été, en tout cas, politique à une époque et risque de continuer à l'être. Enfin, imaginons en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays. Donc, de ce point de vue-là, toutes ces questions-là, pour moi, sont politiques parce que cette question de transgressive législative n'est pas. On ne peut pas purement et simplement la résorber dans l'ontologique. Et puis, il y avait quand même un grand puritanisme d'un certain marxisme-léninisme. Enfin, je disais que Badiou parle souvent de l'antisémitisme stalinien, mais il y avait aussi une immense homophobie, une immense misogynie dans le stalinisme ou le maoïsme courant, quoi, un grand puritanisme. Et pour moi, ces questions-là sont politiques. De ce point de vue-là, je me sens proche de Foucault, Agamben ou Schumann. Et c'est une question assez profonde, mais bon, on ne l'abordera pas là parce que c'est le sujet d'un travail en cours. C'est pas par hasard que dans le péché originel, la science et le sexe aillent ensemble, et qu'ensuite, il y ait toute une région, disons, de ce détraquage normatif. Et aujourd'hui, on est quand même dans une époque qui devrait être passionnante de ce point de vue-là. C'est-à-dire, nous appartenons à ces générations qui voient ce truc. Transgression, législation, c'est pareil. Ou qui devraient le voir. Et pour l'instant, on le voit pas. On voit pas qui déprime tout le monde avec les romans, Houellebecq, etc. On voit que le côté dépressif nihiliste, mais on ne voit pas la chance historique qu'on a d'être en face de cette idée d'identité, transgression, législation. En tout cas, que cette région du détraquage, comme ça, des règles à cause de la science, ça soit par exemple la sexualité, ça, c'est un sujet pour moi tout à fait passionnant, quoi. Et aujourd'hui comme hier, c'est-à-dire que les normalisations se reterritorialisent toujours, pour parler comme Deleuze, reterritorialisent, c'est toujours difficile à prononcer, mais jamais où on croit. C'est-à-dire qu'il y a de nouvelles normalisations implicites qui se mettent en place. Et...
Le geste de Sade, le geste de Pazzolini, tous ces gestes de transgression sont des gestes inesthétiques. Appartiennent à l'inesthétique. Et l'inesthétique, c'est un ouvrage de Badiou qui s'appelle Petit Manuel Inesthétique. Donc c'est un philosophe qui, malgré tout, affronte cette question de l'art comme transgression.
C'est une question compliquée qui pourrait se résumer. Y a-t-il un système ou y en a-t-il pas chez Badiou? Alors il y en a un, bien sûr, mais comment est-ce qu'il capture la question de l'art? Bon, ce qui est sûr, c'est que pendant cette conférence en direct, Badiou avait dit non, mais moi, c'est moi qui avais dit on peut dire l'art contemporain au sens strict comme au sens large, c'est ce qui, suivant cela la phrase de Rimbaud, j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvé amer, et je l'ai frappé, je l'ai insulté, je cite de mémoire. Effectivement, il y a eu un malin plaisir de l'art contemporain, bon, dans les arts plastiques en particulier depuis Duchamp, à déconstruire l'ordonnancement, la mise au pas de l'art sous le régime du beau, ça c'est sûr. Chez Lacoulabart, c'est évident, enfin, l'art ne doit plus être ordonné au beau parce que le beau, en gros, le beau est un mensonge. Voilà. En quoi je ne suis pas du tout sûr d'être d'accord. C'est vrai que dans Erwartung de Schoenberg, qui expose, alors là c'est vraiment une exposition, une installation de l'horreur, il y a de la beauté. Bon, Baudelaire, Les fleurs du bal. Prendre un exemple récent, pour moi un des grands artistes vivants c'est Dario Argento, et bon, je le pense vraiment, je pense que c'est vraiment un des grands cinéastes. Chez Dario Argento, l'horreur devient belle, voilà. Effectivement, par ailleurs, on peut dire que l'art contemporain a été et continue d'être largement un vandalisme du beau, quoi. Une insurrection contre ce qui est l'opération philosophique par excellence, c'est-à-dire religieuse, d'inféodation de l'art au beau. Voilà. C'est probablement pas autre chose, oui, que cette question du mal dans l'art ou de la transgression dans l'art. Très probablement. C'est-à-dire que dans la tragédie, il n'y a pas de rédemption, disons, d'Antigone, mais il y en a une d'Œdipe. La grande question du christianisme, c'est comment est-ce qu'il a pu venir comme ça, comment rédimer toute l'humanité alors qu'il est mort sur la croix, que faire de cette horreur, comment faire du beau avec quelque chose d'horrible, ça a été la question du christianisme. Alors il y a eu une musique sublime, une peinture sublime. Là c'est plus tout à fait pareil, mais ça reste la même histoire pour moi. Parce que pour moi, la grande force de l'art contemporain, au sens large, hein, c'est-à-dire depuis Sade et Goya, c'est... et donc, cette espèce de vandalisme anti-esthétique, de vandalisme contre le beau, c'est qu'à mon avis, là, ça n'engage que moi, mais c'est ce que je pense, c'est que c'est la même histoire. Que simplement, ce que l'art nous dit, c'est, de manière assez explicite d'ailleurs, c'est que tant que on n'a pas vraiment résolu les problèmes, fini les histoires, fini la fiction, fini les mythes. Tant qu'il y a encore du mal, fini les jolies histoires de théologiens et de philosophes. Et donc c'est un peu ça mon propos. C'est-à-dire que... c'est de dire, mais attention. Risquons le mot, c'est une espèce de nihilisme de l'art contemporain. C'est très bon signe aussi. Parce que c'est un signe qu'on ne se satisfait plus de belles promesses. Que c'est soit c'est un jour pour tous, et tout le temps, soit c'est jamais. Voilà. C'est ça que je vois.
Désartification désigne dans son acception première chez Adorno la décomposition ou l'effondrement de l'art, sa dissolution dans ce que la Kunstkritik appelle l'industrie culturelle. Pour autant, mais c'est extrêmement fragile, que l'art puisse se saisir dans son concept comme autonome, c'est-à-dire affranchi de la tutelle magique ou religieuse, ce qui advient héroïquement avec la modernité, la désartification et le processus sous les conditions du capital et de la société administrée, déterminisation de l'art. Si l'on veut, d'un mot, son devenir marchandise, avec sa conséquence inéluctable, éthique et politique, la ruine de l'utopie émancipatrice ou libératrice dont il était porteur depuis quelques siècles, les destructions de sa force de protestation, l'extinction de son énergie spirituelle, l'oubli de sa vocation messianique. La désartification est la fin d'une promesse, d'autant plus grave qu'elle est inaperçue, une sorte de trahison machinée à l'insu de ceux qui trahissent.
Tout à fait. Enfin, j'ai tenu, et comme vous l'avez signalé, à a cité deux fois, enfin insisté, ce qui est un hommage un peu en abîme à la Coulabar, ce qui est bien parfois répéter ad libitum les mêmes citations, certaines citations de Bataille, de Benjamin. Comment répondre à votre question? L'art peut-il se passer de la promesse? Faut pas mentir. Je crois que si l'art peut s'en passer, et parfois des signes tendent à nous faire croire, c'est Hegel qui a raison. L'art, à ce moment-là, est pour nous chose passée. Il faut avoir le courage de le dire.
Cette fois-ci, Adorno. C'est parce qu'il n'existe aucun progrès dans le monde qu'il en existe un dans l'art. Certes, l'art reste impliqué dans ce qu'Hegel appelait l'esprit du monde, il en partage la faute, mais il ne pourrait échapper à cette culpabilité qu'en se supprimant. Il prêterait alors son concours à la domination sans langage et céderait ainsi la place à la barbarie. Les œuvres qui veulent se débarrasser de leur culpabilité s'affaiblissent en tant qu'œuvres d'art. Et vous précisez, le commentaire que vous faites à cette citation d'Adorno, la culpabilité de l'art n'est pas de réfléchir, d'être la mimésis de la culpabilité du monde, elle est de savoir qu'elle aspire à supprimer cette culpabilité, l'utopie philosophico-politique elle-même, cette fameuse promesse, et que par cette aspiration, elle ne peut laisser d'aspirer à sa propre suppression. Tel est le vrai nerf de la désacrification depuis Sade. L'art aspirait à sa propre suppression.
En tant que suppression de l'horreur et de la douleur, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est toujours question de relève, c'est toujours question de catharsis, de conservation, suppression. Qu'est-ce qu'on conserve, qu'est-ce qu'on supprime, et c'est l'aporie productive, c'est l'aporie fertile de l'art. On voit des horreurs, on n'en veut pas dans la vraie vie, mais on en jouit dans les œuvres d'art, enfin, pour le résumer, pour résumer l'idée dans sa plus grande simplicité. Il y a un très beau texte d'Adorno sur la notion de progrès, qu'on devrait vraiment ressortir et tirer à part aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'intellectuels, ça fait très chic de dire on est anti-progressiste. Sous-entendu, il y a tellement d'horreurs et d'abominations que les utopies progressistes, en gros de gauche, ça va deux secondes, mais... Et c'est un texte très très subtil, et comme d'habitude, une espèce de dialectique tendue, douloureuse, déchirée chez Adorno sur le progrès. Quelle est sa notion de progrès? Et Adorno montre très très bien que la notion de progrès, par définition, se conteste elle-même. C'est quelque chose que j'ai résumé avant d'avoir lu, bien avant d'avoir lu ce texte dans l'esprit du livre. J'ai dit, bon ben, coupons l'électricité à tous les intellectuels, et l'eau, et l'électricité, et le compte en banque à tous les intellectuels antiprogressistes. Si on est anti-progressiste, allons jusqu'au bout de la notion d'anti-progressisme, renonçons-y totalement. C'est-à-dire, il m'apparaît qu'il y a quand même une schizophrénie. Je pense que c'est indigne de la philosophie de dire simplement « je suis progressiste, je suis anti-progressiste ». La notion de progrès, comme le dit Adorno, est une notion qui, par définition, se conteste elle-même, que bien sûr, en essayant de dépasser, de supprimer la douleur et la souffrance, nous l'avons par ailleurs exponentialisée, pour utiliser ce néologisme. N'empêche, on ne peut pas dire que ce ne sont pas des progrès. On ne peut pas dire les grandes inventions de la science, de l'art, politique, par définition, c'est plus compliqué, de l'amour, de la sexualité, enfin, les grandes inventions érotologiques. Est-ce qu'on est prêt à renoncer à tout ça? Je veux dire, si on est anti-progressiste, on est ermite ou mormon. Enfin voilà. C'est une polémique contre les facilités, disons, d'un certain anti-progressisme d'intellectuel médiatique en ce moment. Effectivement, la question de l'art prise dans sa radicalité, le résume, c'est que peut-être, et encore c'est pas sûr, à l'exception de Sade, qui se serait bien vu probablement en aristocrate, tortionnaire, mais on n'en sait rien. On n'en sait absolument rien. C'est le mystère, ça. Est-ce que Est-ce qu'il aurait été ce qu'il décrit si... Probablement pas. Il est devenu l'écrivain qu'il était, justement parce qu'il était du côté, disons, vite fait, des victimes, et non pas des bourreaux. Il était quand même... Oui, c'est la porie de l'art, c'est la porie mais fertile, c'est la porie dynamique de l'art. En ce moment, je travaille sur ce mini-opéra de Schoenberg et Erwartung, qui est inspiré en plus de sa vie intime et de faits divers vraiment horribles. Sa femme l'avait trompé avec un peintre qui s'est suicidé avec plusieurs coups de couteau devant le miroir, enfin, une histoire vraiment horrible. Et donc c'est un opéra qui fait partie de la naissance vraiment de la musique atonale, qui date là-dedans. C'est un opéra qui n'est pas très souvent joué, parce qu'il est trop court, il fait une demi-heure. Et donc c'est l'exposition, oui, d'une situation horrible. Mais c'est un plaisir. Enfin. Et... Oui, l'enjeu c'est de ne pas interpréter ça en termes psychologisants, mais réellement, comment est-ce que l'horreur... Et ça, bon, je cite des passages de la Goulabarde sur le peuple grec, c'est-à-dire la grandeur du peuple grec était de regarder l'horreur en face, enfin l'horreur dont il procédait en tant que peuple en face. C'était ça le côté religieux, le côté sacré des tragédies, des performances. Nous, on a d'un côté les matchs de foot, j'adore le foot, hein, donc je suis pas en train de dire du mal, mais c'est pas pareil, même si c'est grec le foot, par ailleurs. Les Grecs regardaient les Jeux Olympiques, enfin, ont créé les Jeux Olympiques, et je me signale les gueules à la fin de la religion de l'art. Le sport, et non pas la tragédie, la musique ou la poésie, était pour les Grecs probablement l'accomplissement ultime. Quoi, alors évidemment, Hegel va dire il manque au beau corps athlétique, la conscience de soi, blablabla. Et ce que je voulais dire, justement, c'était pas simplement nihiliste ou sur ce que j'appelle le nihilisme démocratique, mais c'est aussi de réfléchir à ce que nous faisons automatiquement, c'est-à-dire en tant que consommateur, en tant que spectateur. J'aime beaucoup le titre du livre de Rancière, Le spectateur émancipé, je trouve ça un magnifique titre, très subversif par rapport à aujourd'hui. Et c'était pas du tout une nostalgie, comme il peut presque y en avoir, sans y en avoir chez la Goulabarde, en cela très mélancolique allemand. C'est précisément de mettre à la question ce que nous avons sous les yeux aujourd'hui en tant que consommateur, en tant que spectateur. Bon, quand j'étais adolescent, j'adorais les films d'horreur. Alors j'en regarde moins maintenant, à part vraiment les artistes, comme De Palma, Dario Argento. L'autre jour, alors, Michael Haneke, j'ai jamais beaucoup aimé, mais je regardais... et je dois dire, c'est un film qui m'a... La version américaine de Funny Games. Et puis bon... On n'a pas le temps d'en parler maintenant, mais c'est pas le sujet de mon travail actuel, mais la question du jeu, de l'art comme jeu. Bon. Et là, voilà, on a par excellence des gens qui jouent à un jeu qui est truqué et qui est horrible, et puis en plus, Haneke, en bon brechtien, court-circuite tous les effets cathartiques qu'un autre réalisateur sur les mêmes scènes fignolerait, ménagerait, c'est-à-dire toutes les scènes qui, chez un autre réalisateur, donnerait lieu à une sorte de suspense allaitant et de catharsis libératrice. Chez Haneke, sont court-circuités pour qu'on regarde bien l'horreur en face. Simplement, contrairement à ce que croit sans doute Haneke, même s'il est original d'un côté, ça reste de l'art, puisque c'est quand même une opération qui nous pousse à regarder notre propre violence en face. C'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de nostalgie dans mon propos. Il y a une incitation à... Parce que je crois que c'est ça la philosophie, elle ne change rien à ce qui est là, elle donne juste un peu de distance et de réflexivité, d'inviter à... Oui, de prendre un petit peu de distance. Sommes-nous grecs ou pas en tant que public de masse? plébéien. Là, je parle vraiment presque du point de vue plébéien. C'est-à-dire que tous ces films, parce que ça, c'est quand même une première dans l'histoire de l'humanité, à part peut-être les Grecs, justement, et leur tragédie. Mais depuis 30, 40 ans, violence, gore, horreur, pornographie. C'était pas comme ça avant, c'était censuré. Enfin, c'était interdit, sous le manteau. Et puis c'était pas du tout les mêmes moyens techniques. Mais Hitchcock, bon, par rapport aux tronçonneuses, aux films de torture japonais, aux installations d'art contemporain avec tout le sang, les tripes. J'aime beaucoup Hirschhorn, bon, par exemple. Voilà, c'est une invitation à prendre conscience de notre singularité historique. Il y a une singularité qui est quand même assez extraordinaire. Alors, sommes-nous tous devenus grecs ou pas ? Là, j'ai pas de réponse. Ce qui est sûr, c'est que nous regardons l'horreur. Bon. Est-ce la nôtre ? Oui. Que faire de tout ça ? Ce que reproche Platon à la tragédie, mais c'est l'acte de naissance de la philosophie elle-même, que répète Badiou aujourd'hui, c'est vraiment l'opération philosophique consiste à isoler le bien. Voilà. Je me répète, mais il faut bien prendre conscience du côté nouveau, du côté Platon improvise la philosophie. Que c'est pas constitué, c'est constituant dans la République. Que c'est pris dans l'événement qu'était peut-être le peuple grec tout entier. Ce qu'on reproche fondamentalement Platon à la tragédie, c'est le mythe, bien sûr, et c'est l'entrelacement du bien et du mal. Cette question d'entrelacement du bien et du mal. Et je crois qu'étalement, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai cité Nietzsche et Heidegger, mais au fond, Hegel, pour prendre l'exemple pour moi le plus concluant, c'est-à-dire d'une philosophie malgré tout positive qui n'efface pas les traces du crime dont procède toute positivité, une nouvelle alliance, disons, entre philosophie et tragédie, une nouvelle façon de... Or, chez Badiou, le revival est strict. Simplement, ce qui a changé, c'est l'art, non pas comme mythe ou mythologisation, qu'elle soit païenne ou chrétienne, ou monothéiste, parce que contrairement à ce qu'on dit, ce que disait Blanchot par exemple, quel que soit mon immense admiration pour Blanchot, c'est un peu court de dire, et Lacoula Barthes le reprend un peu trop facilement, les juifs sont le peuple débarrassé de mythes, pas vrai, enfin l'Ancien Testament non seulement il y a des mythes, mais c'est des mythes qu'on fonctionnait autrement, avec une efficacité tout autre que les mythes grecs, par exemple, dans notre civilisation, le péché originel. Et je ne travaille que là-dessus, moi. Je ne travaille que ce mythe-là, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a derrière le mythe de réel ? Voilà. Ça peut être ça aussi le travail de la philosophie, c'est démythologiser nos mythes constituants. Voilà, ce que j'ai peur, c'est que la philosophie telle que ressuscitée par Badiou, comme isolation des procédures de vérité ou de production de biens, de vérité positive, ben, ne soit elle-même un mythe. C'est ça ma crainte. Chez Badiou, il y a une avide non-recevoir de la question de la technique. Chez Lacoula Barthes, c'est le contraire. En bon Heideggerien. J'essaye de trouver un moyen terme, pas pour être modéré, mais de dialectiser le rapport entre science et technique. Chez Badiou, il y a une dénégation de la question de la technique, comme effectivité, disons, comme effectivité politique, qui plus est, de la science. La technique est quand même le nom dont fonctionne, je le dis là en improvisant, mais la technique est le nom dont fonctionne la science à l'intérieur de la politique. Ou, il faut aller plus loin, la technique est la manière dont fonctionne la science comme politique. Il y a une dénégation, une forclusion absolue de Badiou sur ces questions-là, ça c'est clair. Et chez Badiou, c'est ça qui est mis à la question ici, c'est la résorption de la question de la technique comme étant un effet parmi d'autres de la nature. Voilà. Bon, ce frigo, ces lunettes, l'avion. Là, il faut des démonstrations bon, assez minutieuses, assez techniques, c'est le cas de le dire, mais enfin, pour ma part, non. Voilà, non, la technique n'est pas réductible à un pli parmi d'autres de la nature. Alors, chez Badiou, il y a un côté, bon, la technique n'est qu'un effet parmi d'autres de la nature, et donc ça n'existe pas. C'est-à-dire, la production n'existe pas, donc le mal n'existe pas. Vous voyez, tout ça tient ensemble. Pour moi, la dénégation de la question de la technique, dénégation épocale et historique de la question écologique, c'est toujours pareil que cette question que j'appelais tout à l'heure résorption de la politique dans l'anthologie. Donc, malgré son image de marque comme ça un peu publique, et puis Badiou nous retire de la politique avec toutes ces dénégations, ce qu'il essaye de nous donner par ailleurs en nous disant ça c'est la bonne politique, en mode platonicien. Donc, Mao Tse-tung d'un côté, retraduire la République en langage un peu argotique de l'autre. Toutes ces dénégations sont solidaires et moi, me coupe l'herbe de la politique sous le pied. C'est-à-dire que ce que j'aurais pu, même si ce n'était pas tout de suite, quand j'ai lu Lettres et l'événement, ce n'était pas du tout Mao Tse-tung qui m'intéressait. Enfin, je crois que le nom n'y apparaît pas une seule fois. Mais c'est clair que en tant qu'anarcho-situationniste, je me suis dit là il y a les outils hegéliens dont on a besoin pour une politique de demain. Alors, plus tard, en entrant plus et je crois que le débat Badiou la barre est absolument là-dessus, elle porte sur ces questions de productivité, mal,
technique.
Torture, technique, communisme, parce que tout ça, c'est une blague que je fais. Bon, le générique qui est le nom de la vérité chez Badiou, et c'est aussi bien souvent le dégénérique en politique comme ailleurs.
Pour revenir à la question du poème et du mythe, vous nous dites qu'en définitive, sur cette question du poème et du mythe, c'est la philosophie qui a arraisonné le mythe au poème.
La philosophie moderne, la philosophie récente.
Sur trois noms que vous nommez, Schelling, Nietzsche, Heidegger, c'est cette philosophie-là qui a arraisonné.
Oui, c'est ça le paradoxe. Ce n'est pas l'art lui-même. L'art a plutôt démythologisé. Une des significations possibles de la désartification, la désartification. Des artifications d'Adorno, qui n'est pas autre chose que la désistance de la Coulabarthe, qui n'est pas autre chose que, comme je le dis dans le livre, qui n'est pas autre chose que le désœuvrement de Blanchot, qui n'est pas autre chose que l'initiative de Badiou, après tout, elle-même. Oui, c'est le tour de passe-passe historial, et de ce point de vue-là, moi je l'assume, quelles que soient les critiques de Badiou envers l'historicisme, que ce soit chez la Coulabarthe ou probablement moi. Donc moi, je ne cède pas sur l'histoire, sur la réflexion historique. C'est-à-dire qu'avec les Allemands, il y a quand même un grand retournement. Hölderlin est le premier à démythologiser. Ça, le génie de la Coulabarthe, dans son bord à bord avec Heidegger, a été de le démontrer, que chez Heidegger, il y a une tentative de remythologisation. Alors, on peut le trouver chez le premier Hölderlin, mais certainement pas chez le dernier. Certainement pas chez celui des grands poèmes, c'est chez celui des réflexions sur la tragédie. Sade, c'est déjà ça. Comme je le dis dans le livre, l'exposition du mal, l'exposition, etc., production, déchets, abjection, horreur, n'est pas autre chose que ce qui remplace le mythe. C'est pour ça que de manière provocatrice, et si on le lit comme ça, c'est très facile de se scandaliser et de se faire taper sur les doigts par Claude Lanzmann. Mais c'est vrai que j'ai dit, Auschwitz fonctionne, comme dit Nancy, l'interruption du mythe date d'Auschwitz. Bon. Mais je dis, attention, ça fonctionne comme un mythe. Et comme un mythe, ça ne veut pas du tout dire que ça soit un nouveau mythe. La question du mal nous tient lieu, a réellement pris la place du mythe. On peut le dire d'une autre manière. La sexualité, par exemple, c'est notre mythe. Mais ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas du tout pareil qu'un mythe. Nancy va dire la communauté. La communauté, c'est l'absence de mythe. Tout à fait d'accord avec cette énoncé. Ce que je veux dire là-dessus, c'est que... c'est plus la même époque. Et que le tour de passe-passe, c'est que... à l'époque des Grecs, les poètes étaient des stars. Nous, on a Johnny Hallyday, enfin... Michael Jackson, disons, pour prendre quelqu'un de presque... de quasi-mythologique. Au sens d'aujourd'hui, c'est-à-dire au sens parodique. C'est un mythe parodique. C'est un mythe pour Jeff Koons, un grand artiste de... l'installation parodique généralisée, parmi d'autres. D'Hölderlin à Celan, le poète, en plaçant par Baudelaire et Artaud. C'est ça le problème, c'est que la prescription, c'est le cas de la dire médicale, pharmacologique, la pharmacie de Platon, comme disait Derrida, a pris effet. À partir de la terreur révolutionnaire, à partir de la philosophie, elle a pris effet dans la modernité. Le poète est exclu, de Hölderlin à Celan, probablement aujourd'hui, des poètes. J'ai des amis, Christophe Manon, un ami que je considère que c'est un grand poète. Il n'est pas maudit au sens où, voilà, il a un travail. Et... mais enfin, c'est pas Johnny Hallyday.
La désertification prend effet avec la Révolution.
Tout ça, ça va ensemble. C'est-à-dire, je ne sais pas sur l'histoire, parce que ce n'est pas du tout la situation. Et donc, on ne peut pas simplement revivaliser Platon comme ça, sans plus. Je reste intégralement un moderne. Je pense que aussi géniale et puissante soit la construction de Badiou, elle ne va pas nous tenir quitte des questions historiques. De la question qu'a posée Auschwitz, qu'ont posé Adorno, d'Adorno à la Coulaba, c'est-à-dire les philosophies négatives, ce qui n'est pas du tout, pas exactement pareil que ce que Badiou appelle... C'est ça l'ironie, si vous voulez, c'est que, oui, ça a été une opération de la philosophie d'essayer de réarraisonner l'art en général, la poésie en particulier, à la mythologie, ça a été une opération en particulier allemande, Coulabart a eu le courage, alors pour le coup héroïque, parce qu'il fallait vraiment payer le prix, et là Coulabart a payé le prix, un prix probablement trop lourd, je pense. On connaît le prix, enfin, ça s'appelle le national-socialisme hitlérien, de cette remythologisation à effet politique de la... Bon, Wagner, toute la... quelle que soit mon admiration par ailleurs pour Wagner, l'espèce de réhabilitation sans condition de Wagner, de tous les aspects de wagnerisme, et de réfuter tout ce qu'on dit Adorno et la Goulabar, c'est-à-dire, à l'intérieur même de l'art, ce qu'on dit dans leur art, Schoenberg ou Albanberg. Moi, je ne pense pas que Wagner soit sans plus le sommet absolu de l'opéra, sans concurrence. Je pense que Monteverdi, Mozart, et surtout après Wagner, Albanberg, comme le disait le grand chef d'orchestre Karl Böhm, voilà, Albanberg est allé plus loin que Wagner. Il est allé plus loin. Il est allé plus loin sur ces questions du mal, et non pas d'une remythologisation. De ce point de vue-là, oui, avec Badiou et Zizek, non, je ne les suis pas, je ne les suis pas sur cette question de « tout est bien dans Wagner, réhabilitons-le, à toute fin politiques utiles », lesquelles, il s'agirait quand même de le dire. C'est pour ça que oui, ma réflexion reste de nature historiale, parce que voilà, c'est pas la même situation, c'est pas la même situation. Que la question que je pose, c'est est-ce que... Voilà, c'est la j'utilise le mot perversion dans une esthétique médiatique, c'est-à-dire que ce revival platonicien, comme toute répétition, alors là on est encore dans un autre degré sophistiqué de catharsis, conservation-suppression, suppression-conservation plus exactement, on supprime. Donc est-ce qu'en sous-main, il n'y a pas chez... Au fond, c'est ça ma question. Est-ce qu'il n'y a pas chez Badiou une espèce de rapport à la question du mal qui est la même chose que Platon, la question du mythe? Mais justement, c'est pas pareil. En fait, tout a changé. Tout a changé. C'est ça le propos de Inécédé Mévési. C'est au-delà de l'esprit du nihilisme, bon, qui est difficile à lire, donc il est lu petit à petit, Beshoya Beshoya, comme on dit dans le pays où j'ai grandi. Tout a changé, parce que les artistes sont les démythologisateurs. Et la question que je pose, c'est est-ce que le platonisme moderne entretient un rapport qui, pour le coup, est particulièrement tordu? C'est-à-dire qu'on ne va pas reprocher à l'art de démythologiser à travers la question du mal et de l'exposition du mal, on va lui reprocher de ne pas faire le contraire. On va lui reprocher, oui, de ne pas... Alors c'est la question du grand art. Et là par contre, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr d'être d'accord avec tout ce que dit Lacoue Labarthe sur l'impératif d'un art sobre, modeste, etc. etc. Parce que ça, c'est un peu ce qu'on a vu depuis 30 et 40 ans. On voit que ça aussi, c'est une impasse. Donc je suis plutôt, de ce point de vue-là, par contre, du côté de Badiou pour dire nous avons droit à un grand art aujourd'hui. Je dis juste, bon, premièrement sur la question de Wagner, que je ne peux pas le suivre jusqu'au bout, que Adorno et Lacoue Labarthe, pour moi, ont définitivement raison, quand même, de manière assez... Et comme, voilà, c'est pas du tout la même époque, c'est pas du tout la même époque. Si on regarde la situation de la poésie dans la modernité, c'est quand même ça que je pointe du doigt dans l'esprit du nihilisme, c'est de dire, bon, il y a ce cliché du poète maudit, c'est un cliché, d'accord, mais comme tout cliché, c'est qu'il y a un réel derrière, et que, mais voilà, pourquoi est-ce que... Sophocle, il a vécu, il a vécu jusqu'à 96 ans, c'est ça, je crois, 86, 87... C'était une superstar, c'était... Les poètes étaient adorés dans la cité grecque. Il y a des pays, alors peut-être il faudrait nuancer, il y a des pays, la Russie, le Portugal, la Grèce, où les gens lisent la poésie communément. C'est peut-être une question aussi très très française, mais assez allemande, assez italienne, assez... C'est peut-être la question du capitalisme avancé. Peut-être que le capitalisme désartifie lui aussi, et du coup dépoétise.
Groteskem Riesenbogen kratzt Pierrot auf seiner Bratsche, wie der Storch auf einen Bein knipst er drüben ein Pizzicator. Und sich wird jetzt die Bratsche. Nicht der delikaten Linken fast mehr den Kalkopf am Kragen. Räumend spielt er auf der Glatze mit grotesken Riefenbogen.
Mais la dimension de mon travail, si vous voulez, qui est très éloignée maintenant de, et que je dois à la Coulabarthe sur, ben voilà, cette réflexion tout autre sur l'événement que celle de Bayou ou de Leuze ou Heidegger, pour citer d'autres grands maîtres universitaires, parce que avec l'âge, je me rends compte à quel point je ne le suis pas. Ça commence avec la répétition, avec l'événement répétition du silex, cet accident qui devient un événement grâce à la répétition. Pareil avec l'agriculture, avec la chasse. C'est épuré à force de répétition, événement, jusqu'à la mathématique. Par la science, l'être humain s'approprie l'être. De cette appropriation de l'être, cette catégorie d'appropriation que j'hérite évidemment de Heidegger, mais que je remanie très très profondément pour des raisons que je ne vais pas développé ici, cette appropriation de l'être qui a nom anthropologique que la science, avec sa communauté des sens peut-être impurs, avec par exemple la sexualité, le péché originel, cette appropriation ontologique qui a pour nom science dans la philosophie, se solde par un régime d'expropriation généralisée qui est la politique. Et l'utopie moderne, c'est-à-dire l'utopie rousseauiste, schillerienne, hegelienne, marxiste, c'est une réappropriation, une redistribution de cette expropriation généralisée. C'est-à-dire, c'est le schéma historial, hein, comme ça, mis en place Rousseau, Schiller, tel que très très bien commenté par la Coulabarthe, on a quitté la nature, mais à force de technicité et de virtuosité, on va devenir, on va aller tellement haut, et c'était ça l'utopie post-révolutionnaire immédiate, après la Révolution française, que l'égalité universelle va à nouveau avoir lieu. Chez Hölderlin, il y a ça aussi, au début d'Hyperion, c'est les deux états idéaux, l'animalité, la nature, donc en bas, et puis, à force de science, on arrive à un point tel que... Et ça, quel que soit le pessimisme et le nihilisme ambiant, on en est toujours là. Enfin, il n'y a pas d'autre enjeu que celui-là. De ce point de vue-là, oui, c'est vraiment ce que j'apporte à la réflexion philosophique, c'est-à-dire politique, c'est ce lien science qui, par la technologie, devient expropriation, effectivement. Et ça, c'est vrai que de ne pas tenir compte de la technologie, c'est un peu faire comme si... on pouvait se poser en termes politiques, en termes de puissance politique, on pouvait se poser les questions de la même manière que, disons, Lénine au début du XXe siècle. Mais par exemple, à l'époque, il n'y avait pas la bombe atomique, donc il n'y avait pas l'ombre d'une disparition, d'un suicide de l'espèce humaine en tant que telle. Donc la question du sujet politique, pour moi hein, en tout cas, ne peut pas se poser de la même manière et dans les mêmes termes. Mais surtout, cette dénégation de la question de la technique est une dénégation de l'impuissance où nous nous trouvons pour l'instant par rapport à la politique et par rapport à l'époque de Lénine. Il est évident que, oui, entre autres avec la bombe atomique, avec la surveillance technologique généralisée, avec... il ne suffit pas de prendre les armes, et... enfin voilà...
Et il n'y a donc pas non plus de hasard si la fête civique, si propice à faire naître la pure joie, soit une fête populaire aristocratique. Une fête, donc, où chacun s'exerce par la vertu d'une saine émulation à devenir le roi et à exceller dans et comme ce qu'il est, c'est ce que j'appelais plus haut se jouer de soi-même, pour le plus grand plaisir et le souverain bien de la communauté. Le ciel, le plein air, l'éclat du soleil, l'exaltation, pour ne pas dire le culte de la liberté, l'agone généralisée, concours et compétition, émulation, triomphe des meilleurs, etc. Tout cela, c'est la tragédie grecque. Mais la tragédie grecque, moins la scène, c'est-à-dire moins les divisions germinales de ce qui deviendra théâtre ou opéra. Séparation scène-orchestre, séparation du spectacle et des spectateurs, séparation du public et des acteurs, etc. Je dis en effet la scène au sens moderne du terme, car il y a bien dans la fête ou le spectacle de Rousseau, représentation, serait-ce dans la forme de l'auto-représentation, représentation de rien, dit Rousseau, sinon des spectateurs eux-mêmes. C'est pourquoi il ne suscite que la joie de l'être ensemble ou de la réunion, soit la vérité du plaisir que le théâtre, depuis Aristote, se donnait illusoirement pour règle de procurer.
L'amère victoire du surréalisme, disaient les situationnistes. Il y a un livre qui s'appelait L'amère victoire du situationnisme, au sens où l'affrontement au sens strict, c'est-à-dire le milieu qu'on appelle comme ça, est devenu situationniste. Parce que, bon, Dada et Duchamp, qui étaient les pères spirituels des situs, étaient déjà situationnistes. C'est-à-dire, l'art, c'est de créer des situations. Bon. La porée est plus là, c'est que l'art contemporain au sens strict est devenu situationniste en quelque sorte par définition. Donc comment sortir aussi de cette aporie-là? C'est ça que je veux dire. Moi, d'un côté, je suis... Comment retrouver les critères d'un art qui ne soit qu'art, en quelque sorte? Voilà, comment reposer la question de l'art pour lui-même sans qu'il y ait tout de suite le surmoi politique, ce qui ne veut pas dire sans qu'il y ait de politique, mais sans qu'il y ait un surmoi au sens mon art a une destination politique, un effet... S'il est grand comme art, il aura forcément une destination politique, ça c'est inéluctable. Même dans l'ambiguïté, c'est-à-dire qu'il y a le Hölderlin de Heidegger, il y a le Hölderlin de la Poule à Barthe, et c'est pas le même. Mais les deux font une politique. Comment sortir de cette aporie de l'aporie, si j'osais... À partir du moment où tout l'art est devenu situationniste, c'est-à-dire qu'il crée des situations, comment il crée une situation qui soit une situation de toutes les situations, en quelque sorte? Est-ce que les artistes contemporains peuvent faire ça? Il y a quand même une phrase de Debord que personne ne cite jamais, que je cite, moi, à mes risques et périls, je veux dire, je la cite ici, pour une fois, je la cite souvent à mes amis, je ne l'ai pas encore écrite dans un livre, parce qu'elle est quand même brute de décoffrage, c'est dans les commentaires sur la société du spectacle, quand il dit, depuis que l'art est mort, on sait qu'il est devenu extrêmement facile de déguiser des policiers en artistes. J'ai mis des années à comprendre qu'il fallait, je le dis à mes risques et périls, mais qu'il fallait le comprendre à la lettre. Je me risque encore plus, mais disons que depuis le geste de Duchamp, à partir du moment où l'art... Et là, il y a un côté de bord aussi. Si vous voulez, vous pouvez pas faire passer un policier pour Van Gogh ou Francis Bacon, si vous voulez. Par contre, s'il suffit de faire quelque chose... C'est la question art-artisanat, si vous voulez. Et c'est vrai que... Si on doit le dire de manière... on risque de se faire accuser de gros réac à la René Clair, disons. Pour le dire sans ménagement et sans précaution, si à partir du moment où on remplace l'art, disons, par le bricolage, l'artisanat par le bricolage dans l'art, Oui, effectivement, il est littéralement très facile de déguiser des policiers en artistes. Mais littéralement. Ça, c'est un gros problème, je veux dire, par rapport à cette création des situations.
C'est ce que fait le marketing, par exemple.
C'est ce que fait le marketing. Vraiment, je plus débordien que le calibre, c'est ce que fait la police. La police aussi crée des situations. La police au sens strict et au sens étendu des médias, des... Le reality TV qui fait s'extasier ce talentueux situationniste de droite qu'est Éric Troncy. Bon, voilà, c'est des installations. C'est des installations, c'est rien d'autre. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est sûr, c'est que la politique, pour moi, se joue... C'est la manière dont ici, dans ce moment de suspense, de suspension, je peux résumer tout ce qu'on a dit, ce que j'essaye d'apporter dans ces réflexions. Art, science, politique, à nouveau frais de démontrer... Le bon vieux slogan Anar, la propriété c'est le vol. Enfin, ça c'est un vrai enjeu philosophique de ne pas laisser, j'ai dit tout à l'heure, les ambiguïtés proprement philosophiques à son plus haut niveau qui risquent d'être celles de Badiou sur cette question-là. C'est-à-dire, en ne parlant jamais de la question de l'appropriation, la dimension d'appropriation dans l'événement, et des guerres, n'en parlez pas non plus. Comme j'en parle, même si c'est à lui que j'emprunte cette dimension d'appropriation, d'expropriation. Ce que démontre vraiment mon travail, en tout cas donne des outils, je pense, à la politique pour le faire, c'est voilà, de démontrer à nouveau frais que, oui, que la propriété dite privée ne va pas de soi. Parce que c'est sur un fond réellement métaphysique, cosmologique, c'est-à-dire que... qui croise la vieille métaphysique, pas avec les naïvetés de la, humaniste, disons, de la vieille métaphysique, de la hiérarchisation, l'homme à l'image de Dieu, et en dessous la femme, et en dessous l'animal, et en dessous le... Par contre, ce qui est sûr, c'est que, sans que ça soit une hiérarchie au sens plus qu'on monte, plus qu'on est beau, puisque c'est presque le contraire aussi bien, plus on va dans l'appropriation, un animal va plus loin dans l'appropriation qu'une plante. Une plante s'approprie l'air, l'eau, le soleil, c'est tout. Elle bouge pas. Un animal, déjà, il est dans la transgression de ce que la plante ne transgresse pas, c'est-à-dire le mouvement, mouvement totalement gratuit, une appropriation de temps et d'espace. C'est des choses aussi que je dois développer à l'avenir. La sexualité, bon, la jouissance... Badiou dit à Azizé que la philosophie n'a rien à faire avec la jouissance. Je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que la recherche que je tente sur la notion d'événement, c'est quel est ce rapport entre appropriation du temps et précarité de la jouissance. Précarité aussi bien de l'être qui s'approprie le plus, de l'étant qui s'approprie le plus d'être, notamment l'animal humain. Alors plus il y a d'appropriation, plus il y a d'expropriation. Et en tout cas, dans la constellation humaine, déjà, il y a une sorte de pré-politique chez les animaux, ou de politique minimale chez les animaux, pas avec l'extension, évidemment, qui est celle de l'être humain. La politique, c'est le régime expropriateur qui solde l'appropriation. Alors, peut-on réparer, Tikkun, peut-on réparer cette espèce de tort originaire fait par la science ? Et sans noircir le tableau plus que nécessaire. Il est déjà assez noir comme ça, certes, mais c'est ça qui est extrêmement complexe. Ne pas fermer les yeux sur les atrocités dont nous sommes responsables, aujourd'hui comme hier. Ne pas non plus désespérer bien court, parce que, voilà, pas par bonne volonté, mais parce que tout ce nihilisme comme ça qui nous dit de ne rien faire et qui arrive à nous réduire à ne rien faire. Ça va comme ça aussi, c'est une manière de voir qui est fausse.
Fermer les yeux, ce serait un certain art, un art qui, vous dites, nous assistons même plus de toutes parts à une imitation du vide, qui est le cœur de la modernité, mais à une imitation vide qui laisse tout en l'état. Une mimesis indistincte de ce qu'elle imite.
Bah, l'esthétique relationnelle, disons, pour durcir un peu les choses, et malgré la considération que j'ai pour le travail proprement de critique de Gouriot, et pour certains des artistes, bon, ponctuellement, c'est une des productions des artistes, il y a un côté quand même situationnisme social-démocrate, quoi. Enfin, situationnisme subventionné dans tout ça. Ouais. Bon, enfin, qu'on appelle ça esthétique relationnelle, réalitisme, geek, tout ce qu'on... tous les contextualismes, oui, ça laisse tout le temps l'état, ça, c'est évident que... Alors, c'est une question très très profonde, hein, comme le disait le psychanalyste Pierre-Henri Cassel, bon, c'est... Il a un psychanalyste comme ça, il a un artiste contemporain comme ça sur son divan, et il dit, bon, ben, il peut pas produire une... faire une œuvre comme ça, comme étant l'auteur, le producteur. Ils ne peuvent qu'esthétiser ce qui est déjà là. Après tout, pourquoi pas, hein, mais...
Donc l'enjeu pour l'art, en tout cas, c'est de prendre conscience qu'il est mimétique.
C'est vrai que ça, ça c'est un des propos de mon travail. Une des prises de conscience aussi, comme ça, presque tilt, réca. Un jour, j'ai cessé de croire, ce qui s'appelle cesser de croire, mais violemment, à la prétention qu'on disait approximativement anti-esthétique. Bon, ça encore, on peut discuter. Mais la prétention antimimétique de l'art, ça c'est vrai que d'un seul coup je me suis aperçu que tout ça était faux, que l'art, et pas seulement l'art, ne pouvait pas se passer de mimésis. Enfin la mimésis, on y est, c'est aussi originaire, alors, pour paraphraser Lacoux, que le langage ou, hélas, l'argent. L'argent, on peut espérer que même s'il touche aux origines même de notre fonctionnement anthropologique, on peut espérer, malgré tout, qu'il soit supprimé, parce qu'après tout, c'est que du papier. Évidemment, c'est beaucoup plus, hein, c'est la forme même de la sacralité pour nous, c'est du papier investi par l'être, quoi, pas investi par le... Comme les fétiches étaient investis par les dieux. Mais c'est vrai que pour moi, il n'y a pas d'art anti-mimétique. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'art non-mimétique. Pas au sens où ce qui sortirait du mimétisme ne serait pas de l'art. C'est pas du tout ça. C'est que tout ce qui prétend... Et d'autant plus, prétend-on à la destruction de la mimésis, etc. Ça reste totalement mimétique. J'ai même pas envie de donner d'exemples concrets parce que... On peut... Ça n'existe pas. Un art non mimétique, ça n'existe pas parce que il n'existe pas d'être humain non mimétique. Je crois que l'art, oui, doit sortir de cette espèce de... Parce que ça marche pas, parce que c'est faux, parce que c'est une mauvaise foi. Voilà. C'est une mensonge par rapport au réel, par rapport au fonctionnement réel des choses. Qui dit art, aussi iconoclaste et aussi... déterritorialisé, aussi contre-esthétique, etc., etc. C'est comme les gens qui disent, oh là là, ce qu'on essaye de faire, c'est sortir de l'artiste 19e siècle, etc. On n'aura pas envie de leur dire, écoutez, on est en 2010, pourquoi ne pas sortir aussi du 20e siècle, il serait temps. Mais d'autant plus qu'évidemment, alors c'est toujours le côté rapport à Bajois de la philo, c'est vrai que quand on découvre un peu les premiers romantiques, on se dit que précisément ceux qui croient être sortis du 19e et ceux qui croient être sortis du romantisme ne font qu'accomplir vraiment... Ça se résume en trois phrases de Friedrich Schlegel. Le côté justement postmodernisme, ironie, sarcasme, iconoclasme. L'iconoclasme aujourd'hui, c'est quand même un peu provincial, j'ai envie de dire. Enfin, c'est plus Duchamp et encore moins Sade, où il y a un côté un peu plouc, quoi, chez tous ces iconoclastes compulsifs, et surtout qui disent qu'ils sont sortis. Ils sont pas du tout sortis. Et puis les romantiques, c'était quand même des types assez cyniques, assez arrivistes. C'était des artistes contemporains. Avec ou sans guillemets, quoi. Mais bon, beaucoup plus littéralement. Et ça, une fois de plus, c'est le mérite de la Coulabars de nous avoir ouvert les yeux là-dessus. Il n'y a pas de programme de l'art contemporain, alors là, au sens étendu, possible en dehors de ce qu'ont intuitionné les premiers romantiques. Ça, c'est... D'autant plus les premiers romantiques n'étaient pas spécialement romantiques, comme je viens de le dire. Ils ressemblaient plus à un artiste contemporain cynique. Qu'est-ce qu'on appelle romantique ? On ne dit jamais Baudelaire est romantique. Enfin, on le dit presque jamais. Évidemment, il y a un romantisme chez Baudelaire. Mais disons Victor Hugo, romantique. Bon, alors, évidemment, alors, si c'est pour avoir la santé de Victor Hugo, je préfère être romantique qu'un artiste nihiliste, non romantique, dépressif d'aujourd'hui. Ça ne veut rien dire. Évidemment qu'on ne peut plus faire de l'art comme... comme Delacroix en faisait, ça fait pas le moindre doute, mais je crois que ce débat quand même, Badiou, la Coulabars, c'est pour ça que je cite Boulez, c'est que je cite Godard, les plus grands artistes dans leur domaine sont quand même toujours, aujourd'hui, et ça c'est très profond, c'est l'Allemagne, c'est la révolution qui l'a apporté, c'est pour ça que je vais essayer de pas sur l'histoire, c'est pour ça que la Coulabars nous est très très précieux. Les plus grands artistes, Godard ou Boulez et quelques autres, sont toujours des gens qui ont une réflexion sur l'histoire de leur art. Toujours. On n'était pas du tout obligé, il y a trois siècles, de s'y connaître quand même un peu. Maintenant, on est vraiment obligé de... Si on veut échapper, pour aller vite, au nihilisme, un artiste est forcément quelqu'un qui aura vraiment une histoire très très pointue de son art. Voilà.
Cette proposition de la mimésis que vous faites pose l'altération, donc le mouvement.
L'altération intérieure à la mimésis. Un, on n'échappe pas à la mimésis, ça c'est hors de question. Précisément parce qu'au contraire, l'art aussi doit comprendre que c'est sa chance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'archi-mimétique dans le comportement humain. Nous ne serions pas ce que nous sommes sans mimésis. Tout commence avec ça. Tout commence avec la répétition du silex ou le stade du miroir, une sorte de stade de miroir originaire. Et que ce geste-là est archi-esthétique. L'archi-mimésis est archi-esthétique, si j'ose dire. Et que donc l'art a un rôle à jouer là-dessus, et que plus il sera artistique, ça par définition, plus il sera politique. Inutile de politiser l'art plus que de... Inutile de le mettre sous...
Plus que son geste, en fait.
Plus que son geste inhérent.
exemple, sur les théories développées par Judith Butler, mm-hmm. La question de la mimésie, c'est central. Mm-hmm. Sur les questions queer, par exemple. Mm-hmm.
C'est certain. Moi, mon... Mais c'est toujours la même chose, ça, c'est mon côté... Le queer en tant que tel, enfin, je suis. Mais ce qui me dérange, c'est, disons, de pas aller au fond des choses, c'est-à-dire de même si probablement Butler a fini par l'écrire, mais au début c'était plutôt il y a des sexualités minoritaires qui perturbent l'ordre social patriarcal ou matriarcal, la famille. Le problème, il faut bien voir que le mariage lui-même, ça c'est tout le propos de l'esprit du minime. C'est-à-dire en tant que tel, en tant que pratique, moi je suis très très voilà, je... pervers polymorphe, enfin je vais pas. Mais précisément, bon, peut-être comme le disait Zizek, c'est bon, comme dirait Badiou, c'est-à-dire le côté anti-philosophie au sens le plus... C'est-à-dire, j'ai mon expérience à moi, et donc ça subvertit tout le... Non, parce que le mariage, c'est déjà du queer, quoi. C'est déjà parodique, c'est déjà quelque chose qui n'y a pas...
Bien sûr.
Pour moi, le queer, c'est vraiment subversif, en démontrant que... Après, oui, tant qu'il y a des... En même temps... C'est évidemment, surtout avec le puritanisme qu'il y a aux États-Unis, donc tant qu'il y a des évangélistes ultra-puritains qui, évidemment, sous la cravate, vont voir des prostituées, etc. Bon.
C'est ça, le queer, c'est la parodie de la parodie.
Mais, oui, c'est-à-dire qu'on est tous originairement transsexuels. Ce qui me gêne aussi dans le queer, c'est ça, c'est que parfois, on voit bien que le queer, c'est pas tellement les queers ou les transsexuels eux-mêmes qui lisent du queer, c'est souvent quand même... des petits bourgeois hétéros, tout ce qu'il y a plus... lambda, quoi. C'est ambigu, parce que d'un autre côté, je suis de ce côté-là. C'est-à-dire, je veux pas ré-hétérosexualiser la philosophie... C'est vrai que c'est ambivalent là-dessus, c'est-à-dire avec des gens comme Badiou, Zizek. Bon. Mais pour moi, le transsexualisme, je le vois, je le vois originairement, c'est-à-dire que j'apprécie ça chez chez une femme ultra féminine, disons. Prendre un exemple connu aujourd'hui, Monica Bellucci, qui me fascine comme beaucoup d'hommes. Pour moi, ça, c'est un transsexuel à l'état pur, ce qui n'en s'empêche pas de... Oui, c'est une phrase tout à l'heure, je voulais à propos d'autre chose, mais c'est toujours ce nœud mimésis, catharsis, afobung, en imitant... Il n'y a que des économies. C'est... Après, j'ai envie de dire, bon... Ce que je pourrais dire d'un petit peu, de ma conviction un petit peu nouvelle, dans le cours d'une discussion, c'est-à-dire quelque chose que je n'arrive pas encore à développer, à proprement parler, ou en tant que tel en philo, même si j'ai beaucoup travaillé sur Deleuze, mais en d'autres termes, parce que chez Deleuze, comment dire, il y a toujours une doxa philosophique... jeune philosophe, il y a quelques années, c'est pour ça que quand je suis arrivé, j'ai dit « Ah, Badiou, ah bah merde, c'était notre prof, on s'était pas rendu compte, c'était un grand philosophe. » Parce qu'il y a un conformisme aussi, comme les autres, ils regardent le box-office, et « Ah, il y a Deleuze, il y a Foucault, bon, on est Deleuze-Foucauldien, voilà, c'est super. » C'est vrai que moi, je préfère, comme notre amant d'ailleurs, aller y voir de moi-même. Et c'est vrai que là, oui, je me suis dit quand même, là, il y a un type, Badiou, c'est bon... C'est un très très grand philosophe quand même. Ah oui, non, mais c'est vrai, c'était notre prof. Bon. Sur le queer, c'est ce que je me dis souvent avec Deleuze, et qui est propre, ça j'en suis persuadé avec notre génération, Et je le constate en ce moment assez empiriquement avec ce que j'écris là-dessus. C'est quelque chose qui devrait paraître sous une forme un peu pop, disons. C'est-à-dire que j'ai écrit 400 pages là, mais je pense pas que je vais les publier en livre. Parce que c'est trop... Voilà, je vais pas en rajouter. Enfin si, un jour je le publierai. Mais là je vais le publier, j'ai envie qu'il soit un peu lu quand même. C'est ces thèses nouvelles un petit peu sur la sexualité. Et ce que je constate, là, c'est la première fois que je constate une sorte de clivage générationnel, au sens où les vieux ne comprennent pas, vraiment ne comprennent pas ce qu'il y a de nouveau, et les jeunes comprennent très bien. Et là, je crois qu'il y a vraiment, avec la libération sexuelle, la pornographie, etc., je suis content de le dire du reste dans un entretien, parce que c'est le genre de choses... oui, j'aime bien en parler avec des amis, ou... En le gardant pour soi, c'est vraiment... quand on prétend trouver deux, trois trucs un peu nouveaux, c'est assez lourd à porter, parce que si c'est pas partagé, ça peut devenir très vite très, très angoissant, quoi. Bon, là, je dirais pas la nouveauté prétendue, présomptueuse de ce travail, mais ma conviction... que je peux pas en tant que tel dire, mais c'est quelque chose assez deleuzien, c'est-à-dire que je pense qu'on a une génération avec tout ça, avec c'est ça que je voulais dire sur le cuir. Actuellement, on est toujours forcé, même si on est le plus cuir des cuirs, mais d'avoir une économie libidinale limitée par définition. Je veux dire, même si on est un transsexuel, ceci, avec des trucs. Au sens actuel, on a un truc limité. Alors qu'au sens virtuel, au sens le plus délésien du terme, on a accès à toutes les sexualités. Vraiment toutes. On peut se mettre à la place de tout. D'un homme, d'une femme, d'un trans, zoophile, d'un animal... Enfin, il y a quelque chose de deleuzien que Deleuze n'aurait pas prévu comme ça. Ça l'aurait peut-être même choqué parce que c'était pas quelqu'un qui était pour... je sais pas dans quelle mesure il aurait avalisé... ce que Laurent de Sutter, par exemple, fait de sa philosophie, même si Laurent de Sutter a tout à fait raison de le faire. Mais je crois que vraiment la nouveauté, c'est ça, c'est qu'on a un accès comme ça à... virtuel, mais au sens où le virtuel est réel, malgré tout, sans se confondre avec le réel de notre économie libidinale à chacun. Et c'est ça que je reprocherais un tout petit peu au queer, c'est-à-dire de chaque fois ne faire état que de son expérience actuelle, en disant « Ah, vous voyez... choquer le bourgeois, etc. » Et c'est pas ça que je reproche. Moi, je suis très pour choquer le bourgeois, je suis avec eux. Mais comment accéder à quelque chose d'universel? Alors, c'est une question assez compliquée, parce que, bon, il y a des années, mes amis me disaient « Ah, la phénologie du porno, c'est, toi, tu pourrais le faire, et ça. » Je crois pas qu'on puisse le faire, puisque précisément, au sens actuel, on est toujours dans son économie à soi. Mais en même temps, au sens deleuzien, je crois qu'il y a quelque chose d'extrêmement nouveau, et donc un savoir nouveau qui peut émerger sur la sexualité, ça j'en suis absolument persuadé, pour peu qu'on nous épargne les éternels sarcasmes grivois de rigueur, ou nihilistes de rigueur, et... oui, voilà, virtuellement, on peut avoir, au sens où... oui, je me sens cuir, enfin voilà, mais je veux pas le dire comme... ni comme un petit bourgeois qui se délecte du cuir, ni comme, je veux vraiment le dire philosophiquement, en espérant atteindre n'importe qui. Moi, je pense que les vrais transsexuels, par exemple, la plupart des vrais transsexuels, ils sont pas du tout pour une indistinction des sexes, ils sont vraiment dans un devenir, ils sont deleuziens. Ça, c'est un reproche que je faisais là dans un texte, par contre, qui a été écrit, inédit, où je disais, il faut choisir, soit on est déridéen, soit on est deleuzien. Alors, il mélange toujours un peu tous les cuirs, on est à la fois déridéen, deleuzien, tout ce qui est philosophie de la différence est bon à prendre. Non, c'est pas du tout pareil. Soit on est déridéen, donc on va dire, il y a toujours un troisième sexe, c'est-à-dire, comme disaient les autres grands philosophes d'Indochine, donc 561, donc 6 milliards de sexes aujourd'hui, voire plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une différence qui déborde le couple des opposés. Soit on est, à mon avis c'est plus profond, on est deleuzien, c'est-à-dire que actuellement on est toujours ceci, mais dans le devenir virtuel, on est toujours cela. L'actuel masculin n'est jamais que le double du virtuel féminin, etc. Moi, je constate que quand même empiriquement, si on enlève aux vrais transsexuels, je parle des transsexuels qui sont plutôt dans un devenir femme, mais évidemment ça s'appliquerait à l'inverse, je parle de celle-là. Si on enlevait à ces transsexuels tous les signes de la féminité, le signifiant féminin, etc., si on appliquait à la lettre ce que leur prescrit la littérature queer, qui est quand même une littérature très universitaire, hein, très d'un certain milieu, moi je suis sûr qu'on leur enlève tout. Enfin voilà, on leur enlève vraiment tout. Et de ce point de vue-là, à mon avis, le queer est trop déridéen et pas assez deleuzien. Et trop dans... on va dépasser la différence binaire vers une troisième différence ineffable. Et alors que Deleuze, non, c'est toujours devenir femme. Enfin,
Ouais, je pensais à cette phrase de Deleuze, la majorité c'est personne, la minorité c'est tout le monde.
Très belle phrase.
Qui à mon avis lié à ça, c'est-à-dire
oui.
De la question de justement qu'on cesse de s'actualiser, qu'il n'y a pas un tiers.
Absolument, absolument, il n'y a pas un tiers.
E por que o Polo Norte?
Era um velho sonho do João. Encontrar uma alma gêmea com a qual pudesse mexer maravilhosamente a bacia no Polo Norte. Não foi Deus, foi a bacia de John Wayne que o inspirou durante a vida inteira.
A bacia de John Wayne? Não estou a ver.
No sonho do meu marido, John Wayne mexia maravilhosamente a bacia no Polo Norte.
Há sem dúvida sonhos mais extravagantes. E se me é permitido, podemos saber que estranho mistério envolve a bacia de John Wayne?
Não há mistério nenhum. É muito simples. O John Wayne arrasta ligeiramente a perna esquerda, porque é mais pesada do que a direita. Os velhos alfaiates sabiam-no, e por isso provavam as calças sempre à medida. Na perna esquerda, junto aos órgãos genitais, desenhavam a giz uma bolsinha e perguntavam escrupulosamente aos clientes: está bem assim ou quero uma nadinha mais folgada? Ora aí tem.
Não havia que enganar. Estavam sempre no sítio e à mão de semear.
E, tendo chegado a essa conclusão, decidiram casar-se.
Casámos porque estávamos famintos. Famintos de amor, se quiser. Que o amor é filho da fome. Já para os gregos, Eros era filho de Pénia, da pobreza. O amor é fome de outra vida, desejo de transitar. Quando dois amantes se abraçam e beijam, entredevoram-se, morrem um no outro de algum modo e transitam para um novo ser. A vida não pode ficar em nós a repetir-se. O que repetir é estar parado, é ocupar o mesmo lugar. O amor compensa a morte, dá o que ela tira. O homem perpetua-se amando e alimentando-se. Comei, este é o meu corpo. O corpo é fruto assimilado, o fruto é húmus, água e sol. E o fruto assimilado se transformará em espírito, alcançando assim a divindade.
E dizia-se ainda mais. Dizia-se, por exemplo... O que é que o cu tem a ver com as calças? A minha mulher é que sabe tudo, mas para dizer a verdade não há grande coisa para saber. A primeira vez que vi a Ariane, olhei-a nos olhos, de alto a baixo, à minha rica bacia, calei-me muito bem caladinho e disse de mim para mim: é esta. Um homem, se for homem, aguenta a penada. Tente não caia, Joãozinho. Não sou homem de muitas falas. Na primeira aberta, só lhe disse o que o professor Salazar terá dito à governanta: Mariazinha, não estamos aqui para nos divertirmos.
E podemos saber o que, à semelhança de tantos dos nossos compatriotas espalhados pelos quatro cantos do mundo, os leva a emigrar?
Pode. Estamos fartos desta caca.
Mas não têm condições de trabalho neste país?
Nem de trabalho, nem de coisíssima nenhuma. Embora não me desagrade ver trabalhar.
Mas nunca exerceu nenhuma atividade profissional?
Ponha artista saltimbanco ou não ponha nada. É-me igual, mas quando era miúdo passou pela cabeça ser marinheiro. Queria andar no mar alto com um papagaio empoleirado no ombro. Ver outras terras, outras gentes.
Não sejas modesto, meu amor. Agora anda com a Maria que foi marinheiro de água doce.
Je te salue, vieil océan. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé.
E como pensam sobreviver no Polo Norte? A comer carne de burro?
A fazer buraquinhos no gelo com a nossa varinha mágica. A minha mulher e eu não gostamos de carne de burro. Temos umas boquinhas muito esquisitas e não somos democratas.
E como pensam resistir à inclemência das neves internas?
Estás a ouvir, Ariane? O gajo diz que a gente não vai resistir.
Deixa eu falar. Parece que não conhece a corja da TV.
Quem conseguiu sobreviver nesta piolheira também consegue sobreviver no Polo Norte. Não se preocupe connosco. Se nos chatearmos, partimos para a Lua.
Podemos então concluir que é o mesmo desejo de aventura que levou os portugueses de antaño à maravilhosa descoberta de novos mundos que vos motiva ainda hoje?
Ouça, meu simpático senhor, digamos que é o mal-estar do mundo contemporâneo. Sou apenas um pobre imigrante polar, polar ártico. Sou velho como um cagar e chamo-me João de Deus. Dentro de me regardei, Jean. Excuse-moi le salcou, mais já é chaudé grand l'offroide. Ariane va te tricoter un paire de chaussettes en laine et moi je t'enverrai un petit cachalot pour tes descentes dans le fleuve. Bien bon, mon vieux français, encore un effort. Je ne suis pas merdiatique du tout, n'est-ce pas?
Mais...
Anda, Luciano, já enganámos mais um.
Mimesis, catharsis, afrobunk, c'est vraiment le mouvement maintenant que je détecte absolument partout dans notre pensée. C'est vraiment quelque chose de... Et tout à l'heure, j'allais la citer sur Bataille. Après, quand on a parlé du cuir, sur Bataille, j'allais citer ce que disait justement son ami Blanchot. Tout dépassement trouve son point de gravité dans ce qu'il dépasse. L'œuvre d'art trouve son point de gravité dans l'horreur qu'elle surmonte, qu'elle supprime en la conservant. Le cuir supprime... la supposée dualité sexuelle en la conservant, voilà. Mais il faut qu'on... Enfin, je ne sais pas. Je parlais au nom des transsexuels, mais je parle aussi en mon nom propre. Je veux dire, ne m'enlevez pas les signifiants homme-femme, parce que sinon, comment je peux me les approprier quand vous voulez que je devienne... Je ne sais pas, je ne trouve pas ça émoussillant de devenir cuir. Bon, je ne vois pas trop... Devenir femme, mais aussi bien devenir homme, là, je... Et c'est ça, le cuir, pour moi. C'est vraiment... Ce devenir là.
Pour terminer cette discussion, quelque chose qui serait votre geste philosophique, pour rebondir, sur le fait qu'on ne dépasse pas, on est toujours pris. On ne dépasse pas Descartes, Kant, Marx, Hegel et quelques autres. Pour autant qu'il marque la direction d'une recherche, une orientation véritable, on ne dépasse pas Freud non plus, on n'en fait pas non plus le bilan, on s'en sert, mmh. on se déplace à l'intérieur, on se guide avec ce qu'ils nous ont donné comme direction.
Tout à fait, l'important c'est la singularité de ce que vous avez prononcé d'un petit peu nouveau dans... en l'occurrence dans le champ philosophique, donc avec les enjeux qu'il y a derrière, c'est-à-dire dans les enjeux politiques. Donc ma polémique avec Badiou, c'est ma fidèle infidélité, voilà, je cite Orline là-dessus, ma fidèle infidélité à Badiou, parce que c'est la seule manière d'être fidèle, c'est vraiment de, y compris en étant... C'est ce que je voulais dire aussi, voilà, qui m'a échappé avec le cuir, ça j'y pense depuis quelques semaines. Comme je suis un peu dans une période de procrastination, je n'écris pas encore, mais je... Sur ces questions de la technique, il serait assez... à la fois facile, mais il faut y aller. Oui, de prouver que là... bon, il y a le cinéma de Cronenberg qui le montre très bien, mais que... Pour ce qui est de l'animal humain, précisément... on le voit de plus en plus. Le lien technologie-sexualité, bon... c'est une territorialisation du vide au sens où l'entend Badiou, et que ça, on ne peut pas confondre avec les autres animaux. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de vibromasseur ou de god ceinture pour les autres mammifères, si vous voulez. Et ça, c'est pas qu'une blague, c'est quelque chose d'extrêmement... qui a des implications, quelles que soient les grivois qui accueillent ce genre de d'énoncé, mais qui a des implications philosophiques, c'est-à-dire que bon, au-delà de la blague, c'est vraiment on ne peut pas résorber la technique purement et simplement dans un schéma ontologique comme ça. Que c'est simplement de la nature en plus. Ça, c'est vraiment une discussion très très profonde avec Badiou. Et donc, oui, pas de dépassement de Badiou, mais un déplacement de tous les côtés. L'important, c'est de faire quelque chose de nouveau, voilà. C'est tout. De prononcer vraiment des énoncés dont on puisse dire, ah ben ça, ça n'a pas été dit comme ça avant.
Un entretien avec Mehdi Belhaj Kassem à propos de l'ouvrage Une esthétique et mimesis publié aux nouvelles éditions Ligne. Musique Laurie Anderson, Yoko Ono et Eva Hartung de Schoenberg. Texte Philippe Lacoulabarthe, Adorno et Lacan. Archive Entretien avec Georges Bataille, INA 1958. Extrait du film Le bassin de John Wayne de João César Monteiro. audioblog.arteradio.com/a-bout-de-souffle bout-de-souffle.
Tremebat, cum videbat, et tremebat.